Yann, c'est le genre à se dire, ah bah tiens, je vais enregistrer sur bande et les découper à la main, etc. Et
tu vois, ah oui, voilà. Ça, j'ai essayé de faire ça, mais c'est super. J'ai passé une journée, tu vois, j'ai enregistré des trucs. J'ai dit, ah, trop bien, on va faire comme avant. Et bah, j'ai découpé les trucs, j'ai foutu dans une poubelle, j'ai mélangé la poubelle, j'avais tous les bouts de bande, j'ai passé une autre journée à tout mettre bout à bout. Et c'était de la merde.
Le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous. Ça va, Daz?
Ça va et toi, Salman?
Et oui, parce que maintenant, on va dire monte le son, parce qu'on était dans le tempo et ça évolue un peu au niveau du nom.
Changement de studio, changement d'identité.
Absolument.
Donc là, c'est monte le son.
Exactement. Mais Daz, ouais. Par contre, c'est toujours le même principe. Des discussions avec des invités issus du monde de la musique.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un de qualité.
On a un grand nom.
Ouais. Parce qu'on est avec Yann Tiersen. Yann, déjà, il aime pas comment on l'a présenté. Un grand nom et tout. Ça va. Yann.
Bah un grand prénom en tout cas,
déjà ça, c'est que moi appelé monsieur.
C'est
un grand nom maintenant.
C'est vrai. Sam a donné du monsieur à Yann. Ça,
monsieur
plus
vouvoiement, c'était trop.
J'ai mal à m'en mettre.
Bon, Yann, t'es musicien, compositeur, interprète, actif en tant qu'artiste solo depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Après le monsieur, je rajoute une couche, tu sais. Oui, tu es vieux, absolument.
Je vais peut-être y aller, en fait.
On parle d'expérience.
30 ans d'expérience, attention.
Ça fait la différence.
Mais, parce qu'en fait, t'as une discographie hyper riche. Non, c'est vrai, tu produis beaucoup, tu sors beaucoup d'albums. Et, t'as développé vraiment avec le temps, c'est pour ça qu'on veut te recevoir. Une discographie hyper personnelle, en fait. Hyper, je sais pas si radical est le bon terme, mais vraiment menée par une recherche de liberté. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a quand on regarde ce que t'as fait. Parce que c'est hyper divers. T'as toujours, j'ai l'impression, essayé de chercher un peu à éviter tout de suite, j'ai fait tel truc, et ben, je vais me renouveler, je vais le réinterpréter, je vais le faire différemment. Et ça, c'est une qualité artistique pas forcément courante et qu'on trouve intéressante. Est-ce que ça te semble juste de dire que t'es dans une constante recherche de réinterprétation un peu de ton œuvre et tout?
Bah, c'est juste que j'aime pas, enfin, j'adore la musique et j'ai pas envie de me faire chier. Donc, à un moment, je vais pas refaire la même chose tout le temps. Ouais. C'est tout. En fait, ça va pas très loin. Et du coup, d'un album à l'autre, bah, je découvre des trucs. Puis il y a des trucs différents qui me font kiffer. Puis du coup, ça bouge, quoi. Mais ouais. C'est une constante dans la constante. Ouais. Non. En fait, je veux dire, il y a une logique. Et c'est pas si d'un album à l'autre, c'est une évolution assez lente, en fait. Mais ouais, je refais jamais le même, mais heureusement.
Ouais. Mais c'est vrai que dans un monde qui a plutôt tendance à vouloir que les gens, enfin, les artistes, en tout cas, qu'ils aiment bien, que le public aime bien, soit toujours dans la même, tu vois, qu'on puisse le mettre toujours dans la même case. Je sais que les artistes qui font ça, ça peut un peu dérouter leur public, tu vois. Mmh. Y a des trucs où ils s'attendent à être dans des petits chaussons et il faut pas trop les...
Ouais, mais après, c'est c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça permet de fidéliser les gens ou de renouveler le public et de pas... Enfin... Il y a plus de positif que de négatif là-dedans.
T'arrives, toi, à mesurer parmi ton public ceux qui sont des fidèles de la première heure versus ceux qui sont arrivés au fur et à mesure des projets parce que l'esthétique leur plaisait ou...
C'est un mélange.
Ouais.
Au concert, quoi, quand je parle après avec eux. Du coup, ouais, c'est mélangé, je sais pas, je suis pas non plus, je sais pas.
Mais, faire des stats.
des stats, il y en a. Sur les stats des réseaux, c'est plus 25-35, bizarrement.
Ah ouais.
Et okay. Du coup, après, tant mieux quoi. Mm-hmm. Et, après au concert, je discute avec des gens et ça, c'est drôle, ça dépend. C'est vachement biaisé aussi, ça dépend comment ils promulent le concert dans l'endroit en fait. Du coup, des fois, je retrouve là des fois, je retrouvais des gens qui étaient plus militants, par exemple, qui étaient là quand j'avais fait une tournée entre les deux tours en 2002. Ouais, je suis vieux. Moi.
Ah ouais, avec Le Pen. Avec Le Pen au second tour.
Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et on avait fait une tournée des bars avec les têtes raides dans les endroits un peu fachos pour que les gens votent. Enfin, les gens.
Votent bien.
Ouais, les autres, on les.
Il a laissé quand même quelques petits indices sur l'alignement politique.
Ouais, très bien. Et du coup, voilà, genre des gens que je voyais pas. Donc ça varie. Donc là, plutôt des gens assez vieux, quoi. Mm. Et sinon, il y a vachement de de toutes les générations, plutôt jeunes, et puis qui ont découvert, alors par des morceaux connus, mais d'autres fois par les nouveaux albums, je sais pas, ça varie quoi.
Il y a un truc, parce qu'on a dit que c'était très varié, que tu te renouvelais sans cesse, etc. Et en même temps, effectivement, il y a du commun dans tout ça, parce qu'il y a vraiment cette idée de pas proposer des choses trop contrôlées, qu'il y ait du mouvement, des imperfections, un truc vraiment, un rapport à la musique comme art vivant, quoi.
Organique, ouais.
Ouais, complètement. Et avec en point d'orgue un album récemment, qui justement, lui, un peu mêle toutes tes tentatives dernièrement, à la fois de musique acoustique, c'est vrai que t'es assez connu pour ça, c'est ce qui t'a rendu populaire. Et puis en fait, t'as toute une face musique électronique hyper importante dans ta carrière aussi. C'est là d'où tu viens,
en fait. Bah ouais.
Et là, tu les as réunis au sein d'un dernier album. C'est ces deux aspects vraiment qui cohabitent. Tu peux nous en parler rapidement.
Ouais, l'idée, c'était de faire un. En fait, c'est né des concerts. C'est qu'à un moment, j'ai fait une tournée où soit je faisais des concerts acoustiques, piano solo, je faisais une tournée à la voile en Irlande et tout ça. Et il y a un promoteur, il m'avait programmé dans une église. Donc j'étais parti pour faire le truc au piano. Et il me dit non, tu fais le truc électro.
Ah ouais.
Ah ouais, bah super, parce que j'étais trop content. Et il dit ouais, t'as qu'à faire les deux. Et du coup, j'ai fait les deux, j'ai divisé le concert en deux, je fais toujours ça maintenant. Du coup, il y a du piano au début, puis ça dure ou ça dure pas, ça dépend. Et puis après, paf, ça vire électro. Et du coup, je me suis dit ah ben en fait, c'est chouette parce que les deux sont vraiment super opposés, parce que des fois, ça c'est plutôt ça peut groover un peu quoi. Enfin, puis il faut à la fin, ça vient un peu techno, quoi. Et du coup, c'est vraiment le début du concert, la fin du concert, c'est vraiment deux mondes différents. Mais après, c'est ce qu'il y a dans mes albums.
Comment tu le sens, le switch? Tu dis, ça peut être plus ou moins long, c'est en fonction du public.
Ouais. Plus le public est content que je joue du piano, moi je joue longtemps du piano.
Ah, il est terrible comme ça.
C'est un peu comme ça, ouais. Non, en fait, ça dépend. Par exemple, j'aime pas les salles assises parce que je trouve que quand t'es assis, tu dors.
Ouais.
Non, mais franchement, même si t'écoutes un truc super calme, moi j'adore le rapport quand t'es debout. Ben, c'est ton corps qui décide. Si tu te fais chier, de toute façon, tu peux pas rester debout, c'est horrible. Mmh. Donc tu vas au bar, c'est cool. Et du coup, il y a une vraie communication avec le public. Dans les salles assises, j'ai un peu de mal. Donc en général, dans les salles assises, je loupe pas longtemps du piano. Mmh. Voilà. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire un album comme ça. Et j'ai fait donc c'était le premier album aussi où c'était pur piano, il y a rien d'autre pendant le disque 1. Et le disque 2, ben c'était pendant les européennes et les législatives.
Je précise juste, tu dis disque 1, disque 2, c'est le même album, mais c'est juste que tu as divisé en deux parties, quoi.
Ouais.
Tu dis ça pour les gens qui
écoutent des vinyles. mais justement, on a fait pareil sur les plateformes, c'est que en fait, je voulais pas. Ça, c'était une bonne question parce qu'en vinyle, on s'en fout. T'as les deux disques. Sur les plateformes, il y en a un que t'écoutes en premier.
Oui. Ah oui.
Du coup, on a sorti l'album deux fois.
Ouais, c'est vrai.
Avec une fois le piano en premier, une fois l'électro en premier. Parce que sinon, c'était biaisé déjà.
C'est-à-dire que tu vas sur Spotify, tu vas sur le profil de Yann Tiersen et tu vois deux albums sortis à la même date. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas mis dans le même ordre les deux disques, mais c'est exactement les mêmes morceaux, tu vois.
Ouais. Tu sais lesquels sont plus écoutés du coup ou pas?
Ouais, je suis pas.
En fait, c'est
ça
commun.
Dépend sur quelle plateforme.
C'est commun. Les morceaux, en fait, sont les mêmes, sont reliés, il y a le même nombre d'écoutes, etc. C'est juste que tu peux y accéder d'une manière différente. Ouais, exactement. Okay.
Après, disque 1, disque 2, en fait, en vinyle, c'est disque 1, disque 2, disque 3, disque 4, tu vois.
Ouais, il dure combien de temps l'album? Attends, je me rappelle plus.
40 minutes.
40 minutes, ouais.
Chaque fois, non, 80 minutes, mais 40.
Ah ouais, c'est,
2 fois 40.
2 fois 40.
Ah ouais, donc oui, t'as 8 vinyles, en fait.
Ouais, ça aurait été...
Non, ça tient. Bah non, vinyle, tu peux faire 20 minutes par face.
Ok. Donc c'est vraiment
c'est pour ça qu'il faut 40.
Ouais, ok. C'était ça le...
Non, parce que je voulais pas que ça coûte cher, je voulais pas faire un truc où à un moment, c'est chiant.
Bah parce que Daz, on l'entend dans le discours, pour toi la musique c'est aussi un propos sur le monde qui nous entoure et tu l'as matérialisé en fait là tu reviens d'une tournée, il va falloir que tu nous racontes parce que t'es parti en voilier, alors tu l'as déjà évoqué, tu l'avais fait les années précédentes et là c'est quoi, c'était il y a un mois mais t'étais sur la mer, encore un mois?
Ouais, je suis parti en mai, je suis rentré en septembre, enfin août.
C'est-à-dire que ton tourbus, c'est un voilier, en fait. C'est un tourbus.
Là, pour cette tournée-là, oui. Et avant, j'ai fait une tournée en van avec ma chienne aussi. Ça, c'est... La tournée en voilier, on va en parler, mais je suis assez content.
Vas-y.
Le truc pour challenger les systèmes, un peu, c'est en fait, je suis aperçu que on vit dans une société de services, de plus en plus, de prestataires. Et le but de tout ça, c'est de faire du pognon, enfin du profit. Enfin, même si les gens font pas, c'est en fait ça tourne autour de l'argent. Et c'est ce qui, c'est de pire en pire. Donc c'est le capitalisme, capitalisme, et c'est ça qui règle tout. Et du coup, il va y avoir des salles maintenant, enfin moins en France parce qu'on a encore la chance d'avoir un peu de subvention, mais ça va pas durer. Du coup, on arrive dans des salles où toutes les équipes, c'est des prestataires en fait. Donc il va y avoir le tourneur qui va choisir son catalogue d'artistes du coin, tu vois, enfin le tourneur du coin, qui va louer une salle comme il ouvre un peu un Airbnb en se disant tiens, celle-là peut-être ça marche. Tu vas avoir l'équipe qui va faire le bar, l'équipe, et en fait il y a aucune.
Il y a pas de gens qui sont dans la salle direct, enfin qui sont.
Ils se parlent pas entre eux quoi.
Les gens c'est, mais si, parce que les gens c'est des humains, c'est des travailleurs, ils sont, il y a aucun problème avec les gens. C'est juste qu'en fait il y a pas l'unité du lieu et de l'art ou du concert, enfin un truc qui lie tout ça quoi. Enfin ça dépend des salles, mais dans les jauges un peu plus grosses, mais même dans les petites salles ça commence à marcher comme ça partout. Et moi le pire du pire de ça, c'est qu'une fois j'ai fait un concert en Espagne. Alors j'ai fait après une tournée d'un mois en Espagne, tout allait bien, mais je suis arrivé dans une salle, j'ai vu personne, j'ai pas communiqué avec un humain parce qu'il y en avait pas. Parce qu'à un moment, il y avait le catering dans la loge, et puis j'ai même pas vu, j'ai loupé le moment où la personne apportait le catering dans la loge. Donc, je l'ai pas vu, j'ai pas dit bonjour, j'ai rien fait. Les techniciens étaient barrés parce que c'était une salle, il y avait des trucs, et donc moi, quand je suis arrivé, il y avait plus que mon équipe. En fait, j'ai vu personne. Je me suis dit, c'est pas pour ça que je fais de la musique. Moi, j'ai commencé, je sais pas, tu terminais à 5 heures et tu crachais sur le canapé dans le squat à côté. Donc, c'est quoi ce bordel? Ça me plaît pas, moi. Et je me suis dit, comment on peut faire ça? Comment on peut faire, enfin, on peut essayer d'éviter ça. Et du coup, j'ai fait une tournée je suis parti avec mon van et ma chienne. Bon, c'est pas parce que je voulais pas être tout seul. J'ai un golden, j'avais 40 kilos de croquettes, c'était horrible pour les charger.
Ça prenait trop de place dans le van et tout.
Ouais, parce que tout le monde me dit, mais pourquoi t'en achètes pas tous les jours? Bah, vas-y, quand t'as un chien, va lui achète-lui une marque de croquettes tous les jours. Les salles, elles vont pas être contentes.
En plus, tu prends peut-être des croquettes vétérinaires, je sais pas.
Mais non, c'est pas ça, mais ma pauvre chienne, si elle change de bouffe, la chiasse, quoi, merde. Et du coup,
faut le prendre en compte, hein.
Mais non, mais c'est vrai, mais attends.
C'est réel.
Et dans le van, je me dis,
c'est dans la salle. T'es là, et moi, j'étais tout seul, hein, j'avais pas d'équipe. Donc, je suis parti tout seul avec ma chaîne, et l'idée, c'était, je demandais un coin de jardin pour poser mon van et pour dormir dedans. Je voulais pas de catering, pas de rider, rien du tout. Et je disais, vous faites comme si vous invitez un pote ou pas, et puis, on passe un moment ensemble, et puis si vous voulez pas, c'est pas grave, je boufferai dans mon van, et puis. Ouais, des bières au frais.
On précise, catering, c'est quand on accueille des artistes, c'est se substanter un peu.
Substanter, je disais, vous faites, on mange ensemble, on partage un truc, quoi.
Et le rider, juste aussi, c'est, on peut fournir une liste en tant qu'artiste qu'on va donner
c'est
un
ça,
concert en disant, j'aimerais bien avoir telle chose.
Que des M&M's bleu,
ce que fait complètement Yann, très clairement.
Du coup, là, je me suis privé des M&M's bleu.
Oh merde!
Pendant un mois et demi, putain.
Mais attends, ça veut dire que c'est toi qui faisais l'install du matos et tout
Ouais, mais ça je fais, ouais.
Ok.
Et du coup, Et du coup, j'arrivais. Alors, au début, ça s'est super bien passé. Là, c'était marré, c'était chapeau de roue en France et tout. C'était trop, trop bien. Et après, c'était des pays un peu plus. J'ai fait Zurich en Suisse.
Ouais, c'est
voilà, ça marchait plus. Et du coup, j'étais bien en galère parce qu'en fait, moi, j'avais rien nulle part où dormir. Je pouvais pas dans les rues de Zurich ouvrir mon toit là et puis dormir.
Ouais, ouais c'est interdit.
Bah ouais. Du coup, j'avais un pote, heureusement, Terence Fixmer, qui est sur le même label, qui habitait à 100 bornes. Du coup, j'ai fait 100 bornes et je suis allé dormir. Et c'était vraiment drôle de voir que dans plus le pays est capitaliste et où, enfin, du pognon, en gros. Moins il y a de rapports humains, en tout cas moins, parce que les rapports humains ils étaient quand même là, mais moins il y a place à l'improvisation et à l'humanité à partager un moment tous ensemble, et moins il y a de pognon, plus ça est encore là. Donc
ouais, donc ça c'est réel, c'est un truc qu'on perçoit.
Ouais.
La et société après, est moins individualiste quand il y a moins d'oseille, quoi, en gros.
Ouais, enfin je sais pas. Oui, bien sûr. De toute façon, le fric ça rend con, mais ouais. Mais c'est valable pour les pays aussi.
Ouais. C'est. Mais alors attends, parce que ça, c'était la tournée en van.
Ouais, il faut
la tournée en van. Et du coup, donc l'idée, c'était ça. Et après, moi, je suis sorti de ça un peu déprimé quand même, parce que ça avait marché, mais il y a plein d'endroits où ça marchait pas. Et puis, je me suis vraiment aperçu de ça. Le truc, mais c'est dans tout, hein. L'autre fois, j'ai passé les douanes. Pourtant, on s'imagine pas. Même eux, ils font appel à des prestataires de services pour fouiller ton truc.
Ah ouais, ouais.
Non, mais franchement.
Ouais, bah c'est oui. pas des agents.
Non, non. Donc du coup, ça veut dire que c'est même plus, même les mecs, ils sont du pognon là-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, la société qui.
Et en plus, du coup, c'est des gens qui sont parfois pas qualifiés, qui font n'importe quoi, tu vois. Parce qu'ils s'en foutent, ils seront pas là demain, donc. Ah, c'est vrai, c'est.
Si tu payes en plus à coup de lance-pierre les gens, tu prends pas forcément les plus qualifiés, forcément.
Ah bah oui, 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 non, c'est. Putain, ouais, c'est vrai ça.
Qu'est-ce que
j'avais pas pensé comme
et
ça.
Et dans tous les domaines, hein, c'est, ça se privatise à fond en fait.
Et tout, donc ouais. Cette tournée dans le van, ça quand même, tu te dis bon, ça a pas complètement fonctionné comme je l'aimerais. Et c'est là.
Bah ouais. Je me dis, ah non, c'est pas là parce que j'avais déjà fait une tournée à la voile aussi.
Ouais.
Et là, l'idée c'était d'aller de monter au Svalbard, donc qui est au-dessus de la Norvège. C'est l'endroit polaire, qui se réchauffe le plus sur la planète.
Ok.
De monter à la voile là-bas pour y arriver normalement, enfin lentement, et puis de bien prendre conscience de son environnement, de la nature, tout ça.
En parlant en partant de Ouessant, ton coin, t'es parti de.
Ouais, alors moi j'étais en concert, du coup le bateau, on l'a fait, des potes m'ont emmené en Écosse, et on est parti d'Écosse.
Okay.
Parce que j'étais en Angleterre, je jouais en Angleterre, c'était ma sortie d'album en fait. Donc on est allé en train jusqu'à Inverness en Écosse et on est parti de là. On a mis 3 semaines à arriver là-haut.
C'est un voilier de quelle taille à peu près?
12 mètres en alu.
Ok. Et il n'y avait pas de problème pour naviguer dans des eaux parce que les eaux là-bas, j'imagine que c'est super froid. Quoi. Enfin, tu me diras, en Écosse, c'est déjà pas tropical, mais, mais quand tu arrives dans le cercle polaire, ouais, ça...
Alors, bizarrement, je trouve que en fait, en Écosse, c'est encore humide.
Ouais.
Même dans le haut de l'Écosse, et plus tu montes, plus ça devient sec parce qu'il fait froid.
Ouais.
Et du coup, ça se compense quand même.
Ah ouais.
C'est peut-être même limite plus confort. Enfin, après, c'est pas les tropiques. Hein. Il fait moins 5 et 2, mais ça va.
Ah ouais, 2 quand même, ça chauffe. Hein.
Bah, on s'est baigné. c'est vrai. Et du coup, l'idée, c'était de prendre conscience de ça, de faire des impros, de faire du contenu aussi, mais en faisant des impros dans la nature. Et en parallèle, d'essayer de comme il y a une grosse communauté scientifique là-bas, d'aller les rencontrer. Alors, sans être biaisé, donc pas leur parler du réchauffement climatique, juste leur... Enfin, puis moi, je suis pas très bon en intervieweur.
Mm-hmm.
Donc moi, c'était plus... Bon, salut. alors, c'est quoi ton domaine de recherche? Point. Et après, le mec, il parlait et puis il y avait des gros blancs et vous vouliez savoir quoi? Je sais pas.
T'es tombé sur des bons clients quand même?
Non, c'était incroyable parce que justement, en fait, moi, c'était sincère, hein, c'était pas calculé, mais le fait de pas trop être à l'aise et de pas poser des questions et surtout de pas orienter le débat. En fait, ils sont tous switchés sur des questions environnementales et surtout la grande majorité. Et ils ont tous pleuré pendant leur donc c'était hyper émouvant à chaque fois. Et alors les scientifiques, il y avait l'étudiante qui a 20 ans qui étudie aux États-Unis et qui disait que pour faire son truc, elle était obligée surtout de pas mettre le mot climat, enfin tu vois le truc machin.
Ouais.
Aux spécialistes du plastique hyper rigide norvégien qui a l'impression que le mec tu sais enfin la caricature quoi il rien passe ben il y a des petites larmes.
Ah ouais.
Donc là d'une allemande qui étudiait les morues arctiques qui lui pareil elle racontait que elle son domaine du coup c'était d'étudier ça c'est les petites morues là et du coup elle faisait deux expériences dans ses bacs c'est qu'en été elle rajoutait je sais plus combien de degrés. Et du coup, elle était super contente parce que les morues, elles avaient survécu. Ah ben, quand même, il y a de l'espoir. Paf, l'hiver, elle fait la même truc. En hiver, elle meurt toute.
Ah ouais.
Vous allez dire qu'il n'y a plus de morues. Et que c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc, il y a des espèces de catastrophes. Les glaciers, c'est entre 500 et 700 mètres de recul par an. C'est quand même énorme. Donc, en fait, tu avais toutes ces personnes, dont un chercheur hollandais qui bossait, lui, sur les oies. Les oies. sur la migration des oies. Et lui, par contre, il est parti en sucette. Enfin, il a pleuré. Vraiment, il n'arrivait plus à parler.
Ah ouais.
Et c'est...
Poses de questions. C'est-à-dire juste...
Sans que je pose de questions, c'est lui qui commençait à parler du réchauffement, de dire des glaciers. Et, voilà. Après, les gens, ils savaient ce que je faisais. C'est que j'avais dit que moi, mon idée, c'était de les interviewer, après d'avoir ces voix, de les sampler, d'en faire quelque chose, et après de faire des morceaux avec, ce que je n'ai pas encore commencé à faire. Parce que je suis une grosse feignasse, mais je vais le faire.
Donc, il y a une dimension, tu parles même quasiment de dimension journalistique, en recueillant ces témoignages, etc.
Mais l'idée est un peu prétentieuse.
Mais l'idée, justement, justement, c'est vraiment de ensuite de retranscrire cette parole brute comme un média, ou alors vraiment exclusivement de la réinterpréter dans ta musique, d'utiliser cette matière sonore en fait.
Non, bah garder le truc qui est intéressant, c'est que s'il y a du contenu. Donc garder le côté sans prétention du tout, mais journalistique entre guillemets. 4 guillemets, allez, 8. Parce que, enfin, ça l'a dit maintenant le journalisme. C'est...
Ouais. Bah, regarde cette émission.
non, mais justement, du journalisme. Enfin, voilà, ouais. Une vraie liberté de. Et d'avoir du contenu, mais du coup, d'en faire, de générer, parce que c'était un peu aussi, ils disaient tous un peu ça, ce qu'on a besoin, c'est de l'émotion. Et je pense, bah ouais. Toutes les émotions, de la violence, de l'amour, mais de réagir en fait, on a besoin de réaction, et je trouve que la musique ça peut servir un petit peu à quelque chose pour ça. Parce que moi je crois pas changer les. Mais ça peut générer de l'émotion, moi. Du coup, c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire.
Mais du coup.
J'espère que ça, je vais y arriver.
Là, donc tu dis, tu as fait de la capta des voix des scientifiques, mais tu disais, il y a des Allemands, des Norvégiens, etc. C'est-à-dire que toi.
C'est tout en anglais, ouais.
Ah, c'est tout en anglais, ok. Parce que je me disais, comment tu vas mixer un mec qui parle, enfin l'allemand c'est pas très chantant.
C'est en anglais. Okay. C'est pas c'est...
Pourquoi pas là, là. C'est... Ah, j'ai peut-être une recours en rap allemand éventuellement si tu veux.
Ah ouais, ouais. Bah on dit
on écoutera ça. Il y a un point intéressant que tu viens d'aborder à l'instant, c'est parce que on sent que t'es quelqu'un qui a une vision du monde engagé entre guillemets, ou en tout cas qui a voilà un espoir pour un monde meilleur.
Sans les guillemets, je pense.
Ouais, en tout cas sa vision d'un monde meilleur et que voilà, que t'as envie de travailler pour.
Et c'est pas que le monde il faut qu'il soit meilleur, c'est qu'il soit moins pire déjà. Ouais. On va commencer par là.
T'es modeste, c'est bien, on commence à t'apparaître.
Il y a les piano. Ouais.
Mais c'est intéressant ce que t'as dit, tu crois pas non plus que l'art, que la musique, ça va révolutionner les choses. Par contre,
ça j'ai horreur de ça, ouais. Les trucs genre et on peut tout changer avec l'art.
C'est quoi alors, c'est
vraiment, ouais, après je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, mais après même je... Il y a un côté un peu mépris de classe que je déteste dans cette espèce de discours. Parce qu'en fait, justement, j'ai fait une espèce de truc à Glastonbury, le festival anglais, où il y avait trois Américains. Il y en avait une qui était super et qui parlait de la colonisation et tout. Mais il y a les deux autres qui étaient là. Ouais, moi, je suis devant 2 millions de personnes et ben, je peux changer le monde. Et puis, il faut pas parler des problèmes parce que ça fait fuir les gens.
Ah ouais, il y avait vraiment des gens qui étaient en mode pas de politique dans ma musique, quoi.
Bah, si, de la politique, mais sans politique. Donc, ouais. À un moment, c'était complètement débile parce que, genre, la politique, ça va pas me. Les gens, ils vont pas écouter. Donc, je comprenais pas. Et c'était côté vraiment, oui, on peut tout changer. En fait, oui, on peut tout changer, mais tous ensemble. En fait, c'est la révolution qu'il faut. C'est pas seulement faire de la musique, non. Et puis voilà, et jouer devant des gens acquis. Enfin,
le terme a été posé, Daz.
Ouais.
La révolution.
Bien. Ouais, j'aime bien.
Donc toi, ton truc, tu parlais d'espèce de déclencheur émotionnel, l'art potentiellement, et qui soutient la révolte, par exemple, c'est ça?
Bah ouais, bah c'est justement. Tiens, on va rebondir sur.
C'est un journaliste. C'est vrai.
La deuxième partie de mon album qui s'appelle The Liquid Hour, et du coup où là pour le coup c'est que de l'émotion, et c'est élections européennes législatives, j'étais trop vénère, comme c'est un album d'électro, je me faisais pas chier, j'avais podcast 24/24 et j'ai fait mon album comme ça. Et en prenant au début j'avais que des noms de révolutionnaires, et après il y a pas que ça, mais
on a gardé avec Dolores, avec Arnaud.
Voilà, Arnines, il y avait Léon. Ouais. <C'est>...
Et t'as fait son petit délire. Hein, ouais.
Non, mais voilà. Et du coup, en fait, moi, mais faut m'imaginer, j'étais sur mon île à Ouessant, il y avait des manifs partout. Et moi, j'étais là à faire mon putain d'album. Et du coup, j'étais trop vénère. Et j'écoutais les podcasts. Et ça me faisait du bien déjà. D'ailleurs, des fois je switchais, je mettais un peu de Pascal Pro
pour garder la flamme. Ouais, je comprends.
Bah ouais. Ça marche à tous les coups.
Ouais, c'est la bûchette.
C'est grave.
Il faut qu'on
imprégner d'essence la bûchette.
Qu'on se reconnecte un peu à cet album, parce qu'on a même pas cité. Alors t'as cité le deux disques. L'album lui s'appelle Rattling from a Distance, The Liquid Hour, et en fait c'est effectivement le premier disque qui s'appelle voilà Rattling from a Distance.
Ouais, pardon.
Et le deuxième Liquid Hour. On peut bien d'ailleurs s'écouter avant de parler un peu plus en profondeur de cette deuxième partie électro. En plus qu'il y a une facette de toi qu'on connaît un peu moins. Peut-être quand même un extrait au moins du premier disque. D'ailleurs, pardon, sur l'autre album, c'est le deuxième disque. Bref, toujours est-il le côté plus acoustique. Il y a un morceau, toi, que t'aimes bien, enfin, qu'on pourrait s'écouter là, qui pourrait, tu vois.
Présente, ouais, le.
Ouais,
Est-ce que ça serait un peu le morceau éponyme, genre Wrestling from a Distance, par exemple? On pourrait s'écouter ça?
Ouais,
ça te va?
J'allais faire une sieste, du coup.
il a un peu.
Il a un peu long.
Il prend un peu le temps. on peut avancer dedans. Ou un autre, sinon, franchement, dis-nous.
Non, mais bah, c'est le piano, ils sont tous un peu mous. Non,
vas-y. Vas-y, on s'écoute un extrait alors. Ça, tout de suite, ça pose, ah, ça pose un calme. Peu plus les choses.
Fallait couper. Hein, quand
fallait couper, non.
Non, mais cet album, cool, hein. Cela dit, c'est dans les. L'idée, c'est parti de, justement des tournées à la voile et du fait qu'en mer, en fait, il n'y a pas de pression sociale. Mmh. Et c'était un peu sur une réflexion sur qui on est, sur l'identité, sur tout ça. Mmh. Donc c'est assez introspectif et calme.
C'était vers les îles Féroé, c'est ça que...
Ouais,
c'est
là, ouais.
Et c'est un peu c'est aussi quoi, c'est les espaces, les territoires, les paysages qui t'ont aussi inspiré cette musique,
c'est... Non, c'est vraiment ce côté introspectif. Parce qu'après, l'album, je l'ai fait, j'étais rentré. Hein.
Ouais.
Non, mais c'était cette idée, c'est assez fou sur un bateau. Parce que tu... Il y a plein de moments que tu passes en car où c'est la nuit, t'es tout seul. Du coup, tu es une gamberge. Et t'es tout seul. Mais il n'y a que la nature, il n'y a pas les autres. Et du coup, il y a plein de questions, plein de choses.
Ouais. Est-ce que t'es toi-même toi-même ou est-ce que t'es toi-même par rapport aux autres qui te disent qui tu es ou
est-ce, que j'ai, est-ce que j'ai vraiment besoin de me brosser les dents
ouais, c'est par exemple. Question,
ouais, par important. Exemple, ouais. Douche, bah non.
Clairement pas. Hein. Mais du coup, donc quand t'es en mer, t'as du matériel avec toi ou...
Ouais, tu composes pas sur ton bateau ?
C'est que ça à foutre.
Ouais. Bah, j'allais dire ouais, comment tu fais rentrer un piano même
j'ai un piano électrique
un clavier ouais.
Si en fait je travaille mais pas en mer tu gères le bateau ouais. Puis,
C'est vrai que ça pour les gens qui sont pas férus de navigation tu sais ils se disent ouais bon bah tu mets le gouvernail et puis après tu vas dormir
Et ça c'est pas mal de dire avec tous les connards là qui disent que la flotting là c'est croisière ben bah, venez sur un voilier et puis allez gérer
tu parles de Gaza
c'est un truc de fou.
Ouais, c'est du taf.
La voile, c'est pas le confort. Hein. Enfin, la voile dont on parle.
Oui. Bah, oui. C'est vrai que les gens pensent que n'importe quel truc qui flotte, c'est genre bateau de croisière, tu vois. En fait.
Pas vraiment. Non.
Et même sur un bateau de croisière, il y a des gens qui charbonnent un peu quand même.
Non, tu vois, t'as plein de bateaux là qui sont partis à Gaza, c'est des bateaux de 30 pieds, machin. C'est-à-dire, c'est pas du tout confort.
Tu le fais pas pour le plaisir.
C'est dur les conditions, merde. Ouais.
Mais c'est voilà, ça c'était la bûchette, tu vois, que tu remets dans le feu, là, quand justement les gens te parlent de croisière détente, là.
Mais c'est intéressant parce qu'il y a, encore une fois, avant qu'on parle de la partie plus électronique, il y a quand même ça c'est un truc un peu qui traverse toute ta carrière, c'est le rapport au territoire. Alors, territoire, à la Bretagne évidemment, à l'île d'Ouessant, d'où tu viens, à la langue. Alors, quand je dis territoire, c'est l'ensemble, hein, c'est-à-dire la culture qui va avec, les gens aussi sur les territoires, etc. T'as un album, Kerber, dans lequel tous les morceaux sont, enfin, les noms des morceaux sont en breton. C'est une musique, la musique celtique traverse aussi ta musique, pas que, mais elle est là aussi. Et puis, t'avais fait une tournée en Palestine, justement, là, t'évoquais la flottille à Gaza, qui t'a marqué. Mmh. T'as fait un morceau d'ailleurs qui s'appelle Palestine. Ça a joué sur ton engagement politique aussi. T'as été choqué par ce que t'as vu là-bas. Enfin, il y a un truc de
ouais. Ouais, tout le monde est choqué. Hein.
Ouais, j'espère.
Moi, j'ai rencontré des politiques à l'époque, de droite comme de gauche. Mmh. Ils étaient tous choqués. Hein.
C'est rassurant, du coup, de se dire
c'était
que.
C'était rassurant.
Ouais. Au-delà des logiciels politiciens.
Ouais, mais maintenant les politiques, il y a la finance au-dessus.
Ouais.
Ouais. Mais ouais, ce truc de territoire et de ce qu'il y a derrière, c'est pour toi, c'est la base, c'est essentiel, c'est la culture, elle est là.
Quand je dis la finance, pardon, parce que je dis, enfin voilà, les Bezos, les machins, mmh. tout ça, quoi. C'est quand même fou. Je prends toujours cet exemple-là, mmh. mais c'est quand même fou qu'on ait, qu'on milite, tu vois, enfin, que tout le monde prenne comme, qu'on soit tous sur Insta, par exemple, mmh. et que c'est quand même tenu par un mascu, quoi. Mmh. C'est fou.
Après, il a fait son coming out mascu assez récemment. Je pense que lui, il est surtout sans colonne vertébrale, parce que Insta, c'est
Zuckerberg, Facebook.
Tu niques mon exemple.
Non, mais après, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le. J'observe hein, la rapidité avec laquelle ces gens-là, qui à la base tenaient des discours plutôt progressistes et d'inclusion et d'équité, en fait, ont réussi à prendre le pli du fascisme en 3 secondes. Moi, je pensais vraiment que ça allait prendre un peu plus de temps, tu vois, et qu'il fallait à un moment donné que les gens leur mettent un flingue sur la tempe pour qu'ils se mettent au pas. Et en fait, c'est eux qui ont anticipé tous les trucs en donnant déjà des, en pliant le genou, tu vois.
C'est vrai que c'est très marrant de la part des gens derrière Facebook. Facebook qui était la plateforme la plus restrictive lorsqu'il y avait des élections, etc. On ne pouvait parler de rien.
Et qui, après, en 2016, avec Cambridge Analytica, les mecs, ils ont dit bon.
Non, mais c'était, et ben, il y a eu un switch de dire, ah non, mais en fait, on peut rien dire. Mais c'est vous qui avez imposé des trucs, tu vois.
Après, c'est parce que c'est les algorithmes, et les algorithmes, c'est le blé. Ouais, à un moment, forcément, c'est plus facile. La merde. Enfin, ouais. les idées racistes et tout ça, c'est facile.
Bah, parce qu'en plus, c'est du rage bait. C'est-à-dire qu'ils veulent ce qui va te faire réagir. Puisque leur but, c'est que toi, tu restes sur la plateforme pour justement maximiser la pub. Ouais. Et le meilleur moyen de te garder captif, c'est de te mettre que du contenu qui te fout les boules. Et du coup, tu restes dessus pour réagir. Et eux, c'est clair.
On parlait des
territoires.
Des territoires.
Alors, ça traverse toute ta carrière, on est d'accord, non?
Ouais.
Alors, si tu dis non, ça fout en l'air.
Merde, ma démonstration ne marche pas.
Je vais me venger. Putain, Zuckerberg, quand même, merde. Ouais. Je sais plus ce que je veux dire.
Les territoires.
C'est assez terrible, dit comme ça.
Bah justement non. Je me suis aperçu en fait, je raconte toujours cette anecdote, mais j'ai traversé la Californie à vélo avec ma chérie et en fait on s'est fait courser dans une journée où on était au milieu d'une grande forêt, on avait 12 heures de vélo à faire par un puma. On a failli se faire bouffer. Donc là je me suis rendu compte que le territoire et savoir où on est, c'est hyper important. Et après c'est plus c'est le territoire en opposition à la colonisation en fait et la colonisation des peuples mais de la nature aussi, pour une seule raison, c'est le profit, de tout temps. C'est pour ça qu'on a exploité la nature, c'est pour ça qu'on a exploité les peuples et qu'on a massacré des cultures. Donc en fait, je trouve que la notion de territoire, elle est importante par rapport à ça, justement, dans l'idée justement décoloniale et et aussi de se réapproprier. Je trouve qu'on a des langues pour parler tous ensemble. Je sais pas, il y a l'espagnol, l'arabe, l'anglais, et c'est génial. C'est des langues internationales et que maintenant, justement, tout le monde apprend plus ou moins et tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Et après, il y a les langues minoritaires, les langues locales. Et les langues locales, elles ont le savoir et c'est un peu le mode d'emploi de l'endroit. Et il y a des siècles en fait de culture et ça, c'est vachement important. Et du coup, c'est l'inverse d'un discours traditionnaliste, c'est l'inverse des traditions. C'est en fait justement la culture, les racines, mais les racines multiculturelles de tout le monde et qui peuvent après être le fuel pour... je sais pas, on va prendre pas le fuel, mais
un carburant,
l'énergie en tout cas,
éco-responsable.
C'est ça, ouais. Le vent dans les voiles. Ça peut être le fuel pour justement communiquer avec ces langues internationales et comprendre, apprendre de l'autre. C'est la différence entre tourisme et voyage, la différence entre mélange des cultures et colonialisme. Et c'est apprendre de l'autre. Et du coup, bah, pour apprendre de l'autre, il faut aussi que l'autre puisse être fier de ses racines et exister, quoi.
Donc pour toi, c'est...
Donc le truc du territoire, c'est par rapport à ça. Et je me... Voilà, après, en Bretagne, il y a le breton qui véhicule des choses. Bah, quand on navigue, par exemple, le nom des amers, le nom des rochers, des trucs, ça a toujours une signification. Quand tu comprends le breton, tu comprends. Le nom des lieux aussi. Il y a des, par exemple, quand j'étais petit, il y avait un lieu à côté de moi, ça s'appelait Causeverne. Putain, c'était magique et tout. Il y avait une grosse baraque là. Je me dis, enfin, une grosse baraque. C'est le Finistère, mais enfin, il y avait une maison, quoi, qui était vachement belle. J'étais, Causeverne, ça veut dire. Ça veut dire vieux truc pourri. Enfin, ça, fait, c'était la déchette, quoi, du coup.
La vision que tu développes, elle nourrit aussi une forme parfois de colère, etc. Une colère, en tout cas, qu'on retrouve dans cette partie plus électronique, justement, liée à l'actualité, etc. Est-ce qu'on peut s'écouter un morceau, justement, de ce deuxième disque? Je sais pas, est-ce que ça pourrait être Nino Cazzi, est-ce que ça pourrait être Dolores? Alors Dolores c'est hyper long, il dure 10 minutes le morceau.
Bah non.
mais au moins un extrait, j'en sais rien. Qu'est-ce qui pourrait être adapté?
Je sais pas. Hein.
C'est vrai? Qu'est-ce que t'aimes jouer en ce moment en live
Je joue quasi tout l'album, donc comme ça.
Ouais.
Ça nous aide pas.
Eh ben, bah non, je sais.
On met Nino Cazzi, il y a tout de suite un beat et tout, ça dure 3 minutes, donc.
Ouais, ça marche.
Ouais, on fait comme ça.
C'est ciblé, c'est le single.
C'est vrai. Allez, c'est parti. Le single. Je t'ai déjà entendu parler des instruments électroniques, des instruments acoustiques. T'as une passion pour les instruments électroniques que tu trouves très vivant, paradoxalement, plus organique presque que les instruments acoustiques. Enfin, je sais pas si c'est le... Tu nous diras exactement ta vision. Est-ce que ça fait que tu travailles différemment sur, tu vois, la partie disque 1, disque 2, ton setup, il est forcément différent, mais dans ton approche de la composition, t'es vraiment dans un truc, un état d'esprit différent?
Moi, je fais toujours tout de façon un peu basique, empirique. Du coup, les morceaux, si je compose pas, quoi, ils se construisent comme ça, quoi.
Tu jams, entre guillemets, t'es dans
tout. Ouais, voilà, ouais. Tout seul, comme un con.
Non, c'est vrai. Ouais.
ouais, c'est grave ça. Ouais. Et du coup, les instruments électroniques, je trouve qu'il y a c'est un peu mystérieux, ça nous échappe. Enfin, il y a un truc hyper organique dans l'électricité, en fait.
C'est paradoxal, ouais, mais.
Ouais, c'est paradoxal, ouais. Mais en fait, on le ressent comme ça. Mais je comprends, ouais.
Mais même la machine, en fait, quand elle est allumée, elle paraît vivante, avec les loupiotes qui généralement.
Mais ouais, voilà.
Et c'est d'autant plus valable avec le matériel analogique, qui va dépendre aussi de la température autour.
Un piano, ça vit pas, enfin, tu le vois pas.
Ça peut aussi, mais ouais.
Et puis un instrument. Électronique, enfin aussi il y a une espèce d'accessibilité où c'est hyper démocratique. Enfin, je veux dire, nous on fait un festival du modulaire tous les ans à Ouessant et il y a le matos qui est là. Enfin, puis les gens des fois ils viennent, ils tournent des boutons, puis c'est super, tout le monde, t'as pas besoin
pas besoin d'apprendre.
De rien, au contraire même. Mais c'est génial. Enfin, et alors que le piano, ben, c'est un bon exemple, parce que le piano, c'est de la torture sur un bout de bois, quoi. C'est un truc hyper occidental, hyper. Ouais. C'est méchant, un piano. Non, mais j'allais dire, c'est hyper.
En même temps, t'appuies sur une touche, le son sort.
C'est un peu facho, le piano, quand même.
Tu vois, le violon, par exemple, c'est rude. Tu fais aussi du violon. Le violon, c'est rude de sortir une note juste.
Ouais, mais ça, c'est un peu plus. Il y a quatre cordes déjà.
Ouais, mais tu vois, le piano, t'appuies sur une note, t'as une belle note déjà, quand même. Il y a un truc accessible et un peu.
C'est bien beau, bien cadré.
Ça te récompense vite, en tout cas. Non, tu vois?
C'est marrant parce que c'est le piano qui est donc un instrument qu'on peut considérer comme dur dans tous les sens du terme.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai que par contre, il transmet de l'émotion instantanément quand tu appuies sur une touche. Tu
vois, c'est fort. Non, parce qu'il taille le piano, mais c'est quand même un de tes instruments de prédilection. Hein,
non, mais c'est pas ça. J'ai un rapport assez bizarre avec cet instrument. D'abord, c'est l'instrument que mes parents, ils étaient super. Mais moi, je voulais faire autre chose et je voulais faire du violon puis de la guitare. Et à un moment, comme j'étais hyper jeune, j'ai commencé par le piano. Donc déjà, je voulais pas faire du piano. Et après. Bah voilà, du coup j'en ai fait depuis que je suis tout petit, donc des fois j'arrive à jouer, quoi. Et après, je sais pas, il y a un machin où je me sens pas libre avec le piano. Alors, mais j'aime bien aussi, c'est un peu con.
Pourtant, il y a, une culture, c'est autour des pianos préparés, des trucs comme ça, tu sais, où justement.
Bon, je suis trop feignant, moi, pour ça. Ah ouais. Non, j'ai fait un peu, mais.
On fait dévier un peu le piano, tu vois.
Ouais, mais je préfère faire une tournée potard, moi, que passer une heure à foutre une boule de ping-pong. Non, mais il y a un côté. Ouais, mais là, c'est pareil, c'est vachement. C'est génial le piano préparé, mais putain.
Ouais, c'est du
boulot,
Et alors, dans cette histoire de, on a compris donc ton rapport aux instruments électroniques, dans ton approche de la composition, alors tu dis c'est une jam, etc., mais on jam pas de la même manière avec des instruments acoustiques et avec des machines que tu vas pouvoir louper tout de suite automatiquement, etc., tu vois. Ou alors ton approche de l'acoustique, justement, elle s'inspire de l'approche électronique?
J'ai pas compris la question.
Ah, pardon, je déconne,
c'est
pas clair, non?
Si. Non, mais je sais pas, moi c'est plus simple, je sais pas, enfin. Moi, quand je travaille, je fous un micro si c'est de l'acoustique, et puis sinon, je tourne des potards, hein, puis j'enregistre, et puis voilà.
Et toi, quand tu.
Ouais.
Non, mais
quand t'as la mélodie en tête, dans ta tête, c'est quoi? C'est plutôt un truc acoustique ou tu sens déjà le.
Il a pas de mélodie en tête, alors, il lance des trucs.
Non, c'est le pire, je suis un peu débile, moi. Mon dernier album, justement, Liquid Hour, en fait, j'ai décidé de le commencer sur Linux.
Ah ouais, toi, t'aimes le challenge en plus.
Hein. Ouais, ouais, ça marchait. J'ai galéré, mais. Pas sur Beatwick, PopOS. Okay. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai dit, putain, c'est trop cool. J'en ai marre.
Parce qu'avant, t'étais sur quoi? Sous Mac et
Sous Mac
Logic,
au studio. Donc, en plus, je suis sous Mac au studio. Mais là, j'étais chez moi et je l'ai commencé que sur ordi. Je voulais faire ça. Je voulais commencer l'album que comme ça, avec des textures et trafiquer les machins. Et j'avais décidé de faire ça. Donc, je l'ai fait. Et après, donc, comme on me disait, je pars de quoi ou tout ça, là, je suis arrivé à l'escale, au studio, avec toute cette matière-là, mais qui ressemblait tellement à rien, quoi. C'était hyper abstrait, c'était hyper.
J'imagine qu'en termes de VST, de plugins, de machin, de trucs, c'est assez limité, non?
Beatwick, c'est cross-plateforme, c'est sur toutes les plateformes. D'accord. Et après, moi, c'était plus sur des trucs granulaires et tout ça, c'était assez basique, ce que je voulais faire. Je voulais traiter de l'acoustique ou des choses que j'avais enregistrées, ou partir de zéro, et je voulais mettre les bases là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, le digital, et je voulais commencer que sur ordi, en fait. Parce que j'ai la chance d'avoir un studio où il y a plein d'analo et où j'ai des bandes et tout ça. Et en fait, je voulais faire l'inverse. Enfin, j'aime bien toujours.
Oui, parce que, par exemple.
Pourquoi faire simple quand même?
Yann, c'est le genre à se dire, ah bah tiens, je vais enregistrer sur bande et les découper à la main, etc. Puis après, il dit, ah non, en fait, j'en ai marre, je reviens un truc hyper sur Beatwick, tu vois.
Ouais, ça, j'ai essayé de faire ça, mais c'est super. J'ai passé une journée, tu vois, j'ai enregistré des trucs. J'ai dit, ah trop bien, on va faire comme avant. Et paf, j'ai découpé les trucs, j'ai foutu dans une poubelle, j'ai mélangé la poubelle, j'avais tous les bouts de bande, j'ai passé une autre journée à tout mettre bout à bout, et c'était de la merde.
Écoute. C'est bien de le reconnaître.
Ouais, c'est chose qui
arrive. J'ai dire, oui, c'est expérimental.
Bah bon, non, enfant, c'était vraiment pourri.
Ma question tout à l'heure, tu sais, sur ton workflow, entre guillemets, autour de l'acoustique, de l'électronique, les points communs et tout, c'était aussi pour te faire dire, parce que je sais que c'est une de tes manières de travailler, pas la seule peut-être, mais une de tes manières, c'est que même quand t'es dans une approche acoustique, t'es dans une approche du sampling. C'est t'as une culture du sampling, tu t'enregistres, tu vas retravailler cette matière derrière, etc. Je dis une bêtise ou...
Non, pas du tout, ouais. Bah ouais, même les albums, je les conçois vachement comme ça. Bah d'ailleurs, l'album à la base, mais alors bon, l'album de piano là, c'était les sources. Mais oui, j'ai oublié. c'est vrai en fait. C'était les sources de Liquid Hour. En fait, j'étais parti des morceaux que j'avais fait au piano. J'avais fait des suites d'accords sur les synthés, tout ça machin, et j'ai tout remouliné dans Linux et puis enfin dans Beatwick et puis. Puis en fait, ils n'avaient plus rien à foutre. Et voilà. Non, et ça, j'aime bien me servir de ouais.
Tu sais, tu le fais même avec des albums précédents, des fois aussi. Genre, tu récupères des trucs que tu avais fait avant.
Non, moi, je. Ah ouais. Quand c'est fait, c'est fait.
Ou alors, c'est en live, ou tu sais, tu pars sur une tournée, en fait, et au lieu de refaire à peu près l'album, tu vois, là, par contre, tu le retravailles complètement.
Ouais, de l'hybridation, un peu.
Bah, quand j'ai fait des tournées où, c'était. Mais.
Genre t'es la douille, tu te dis ah tiens j'ai écouté l'album et tout, t'y vas pour un truc hyper acoustique et en fait il te fait de la techno, tu vois.
Ouais, non mais justement ouais,
ça on a fait, mais c'était pas de ma faute. fait ça s'est passé l'album d'avant, c'est que j'ai sorti Kerber qui était plutôt piano machin, et après j'ai fait un truc pour le Super Boost à Berlin qui a un truc autour du modulaire. Du coup j'ai refait un album en partant de Kerber en disant tiens je vais refaire les morceaux mais un peu plus électro, en fait ça avait plus rien à voir, et du coup j'ai fait ça et puis j'étais ah c'est vachement bien, et j'ai dit bah ok je vais tourner qu'avec ça. Et là manque de peau, Covid, machin, et je me retrouve après le Covid à faire cette tournée-là avec des gens qui croient qu'ils vont écouter un concert de piano.
Oh putain, ouais.
Et en plus, tout le monde le savait, hein, mais c'est des dates, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-unes en Espagne, et en plus, les promoteurs du coin, ils vendaient ça, putain, c'était horrible, il y avait des... Enfin, c'est incroyable, ils avaient vendu ça comme un concert de piano, et moi j'arrivais, on avait Sam qui faisait du VJing, et du coup, c'était
ouais, c'était
pas le plein la gueule, les, ouais. Les gens, tu sais, tu faisais des trucs s'il y a des épileptiques dans la salle machin, et ben ouais c'était dur.
Ouais parce que du coup quand tu vois justement tu as un concert et t'attends le morceau que tu connais, et des fois t'es vénère quand l'artiste il le fait pas, putain là il fait pas du tout l'album.
Ah ouais,
non,
c'est chaud, non mais là. C'est pas, ouais mais moi c'était clair depuis le début, c'était pas moi, c'était
oui, après, c'est
des
la
gens
façon, voilà, c'est la façon
des producteurs, des promoteurs locaux,
ouais. Ouais. Je t'ai déjà entendu raconter une anecdote, mais je pense que c'était il y a très longtemps, où il y avait une dame qui était venue à tes concerts quand
je raconte tout le temps celle-là.
Ouais, vas-y,
c'était à l'époque après Amélie truc là, et il y avait,
il va même pas le citer comme ça.
Des trucs, ça restera.
Il y avait, je jouais dans une salle parisienne, je crois que c'était où, bon, je sais plus. Enfin bref. Et là, moi, j'étais, il y a mon tourneur, il me dit putain, il y a une nana qui était là à la billetterie, elle dit mon mari me dit que c'est pour Yann Tiersen sur scène, c'est pas lui.
C'est pas ça. C'était bien toi qui étais en train de jouer.
Ouais, c'était drôle.
Non, mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est la manière aussi dont une partie du public peut peut-être essentialisé parce qu'ils t'ont entendu sur un truc qui les a touchés, tu vois, et ils se disent ok, ce gars-là, il fait que ça, tu vois, j'ai décidé de, pour moi, il ne fait que ça, ouais. Et du coup, il y a même un rejet, genre les gens comprennent pas, non, quand t'es pas là où ils attendent.
Ils sont tombés sur le mauvais client, parce qu'on comprend quand même, ouais. Que Yann, dès que tu lui dis va tel endroit, il va à l'inverse, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça chez
non,
toi
non,
quand même.
Pas
un
seulement,
peu.
Hein.
Faut lui dire va pas là-bas, et là, il va y aller.
Non, mais il y a un peu un truc comme ça chez toi quand même. Non,
ah, ouais. il est inattendu.
Le contre-pied.
Pas le contre-pied, c'est que j'aime pas les. C'est le monde, il est complexe. À un moment, c'est les étiquettes, c'est jamais bon. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on vit. Enfin, putain, à chaque fois. Mais non, mais c'est les journalistes maintenant qui font ce truc de facho là, de dire c'est oui ou c'est non.
Ouais.
Alors. Ouais. Je fais du piano ou je fais.
C'est l'un ou l'autre. C'est
l'un ou l'autre,
il
y a pas.
Y a pas de nuance, en fait.
Donc c'est pas vrai.
Ça peut nous amener d'ailleurs à parler un peu, à revenir un peu en arrière dans ta carrière si tu veux bien. Et d'ailleurs, je précise, parce qu'on l'a pas dit, tu sais, on a parlé de tournée en Norvège, etc. Mmh. C'était vraiment, en fait, t'étais sur ton voilier, puis tu t'arrêtais, tu longeais la côte, tu t'arrêtais, t'allais faire des dates, etc., tu repartais. Donc il y a eu ce mélange comme ça, avec parfois des concerts gratuits, plus ou moins informels.
Ouais, que des concerts gratuits, ouais.
Parfois prix libre. En tout cas, c'était une intention originelle.
Ah bah, enfin, moi, je jouais gratuitement. Après, ouais. Les gens, il faut bien qu'ils. Bah
ouais, c'est non, ça. Ouais, c'est là, ça. Pour là, toi, oui, t'étais pas payé.
Attends, là, moi, je suis désolé, mais logistiquement parlant.
Ouais, je suis tout seul. Hein, je suis dans ma maison. J'ai mon bateau. Donc à un moment.
Ouais. Mais du coup, t'as quand même du matos à sonoriser les endroits.
Non mais attends, mais.
Les salles sont équipées. Toi, tu débarques avec.
C'est des salles. Moi, j'ai joué. C'est des petits lieux, quoi, des bars et des trucs. Il y a toujours une petite sono qui traîne. Et moi, je sors. J'ai juste une stéréo que je balance.
D'accord. Donc t'arrives quand même avec ton clavier ou un truc et.
Ouais, bah celle-là, s'il n'y a pas de clavier, c'est plus mes machines, quoi.
Ouais, ok.
Mais
d'accord.
C'est petit, ça tient dans 4 pellicaisses. Enfin, 4 valises étanches pour. Le bateau, c'est mieux.
Donc t'as fait ça, c'était vraiment une tournée. T'as créé aussi, tu le disais, du contenu. Alors, avec les scientifiques, etc. Mais t'as aussi fait de la musique. D'ailleurs, t'as fait de super belles vidéos. On peut les retrouver sur YouTube, sur sa chaîne, ou vraiment dans des paysages absolument incroyables. Tu fais de la musique, tu fais des performances.
Mais c'est du live. Enfin, c'était vraiment.
Et alors, la capta vidéo, qui fait ça?
C'est Colin qui était avec nous, Colin Mal.
Ok. Donc t'es pas tout seul.
Ah non, sur le bateau, j'ai pas tout seul. Bah non. On était, c'était équipage féminin. Ouais. Et il y avait Colline, Lucie, Anne et moi.
Donc vous étiez quatre.
Ouais.
Ok. Ah, c'est un peu plus clair.
Colline filmait et Anna, Lucie, on naviguait tous les quatre, hein, de toute façon. Et voilà.
Bon voilà, on vous invite à aller voir un peu ça sur ta chaîne YouTube, vraiment c'est hyper beau, et puis globalement à écouter l'album, et j'aimerais vraiment quand même qu'on revienne un peu sur, parce que t'as fait plein de trucs hyper différents, et j'aimerais bien avoir ton regard un peu, tu vois typiquement, moi j'ai découvert un truc que je savais pas, je suis remonté un peu dans ta discographie, et sur Tout est calme par exemple, qui est un album qui est sorti en 99, en fait tu chantais beaucoup. À un moment, t'as chanté.
Mais alors, tout le temps, j'ai fait plus d'albums, et en fait, tous mes albums depuis 2010, c'était chanté. Il y avait que des chansons, il y avait aucun instru. Et voilà, en fait, j'ai fait plus de chansons que de morceaux instrumentaux.
En fait, ce qui est paradoxal, c'est que ça avait, enfin, qu'il y ait des voix, etc. Même tu fais encore effectivement de ces dernières années, etc. Tu continues à mettre des voix, mais le côté vraiment presque format pop chanson avec ta voix très mise en avant, très incarnée par toi. Ça, c'est un truc quand même que tu fais moins. J'ai l'impression. J'ai été étonné.
Ouais, je chante sur scène là.
Ah ouais.
Mais tu vois, les gens, ils s'y attendent
mais
pas.
Mais j'ai une
aussi.
Voix de merde, donc maintenant. mais du coup, je m'en sers. Là, j'ai... Non, il y a pas mal d'autotune et tout, c'est cool.
Ouais.
Et je pense que je vais revenir à des. Non, la voix, c'est toujours. Pas parce que ça me. En fait, moi, j'ai des trucs où ma musique elle est utilisée pour mes trucs là, justement. Mais non, mais. Moi,
le défi, c'est de ne pas prononcer le nom de ce film, ok?
J'ai du mal avec ce film. Mais j'ai du mal avec ce film parce qu'en fait, ce film, il a beau être en 2001, c'est quand même un film avec que des blancs, qui se passe à Paris.
Dans un Paris qui n'existe pas. Là,
dans un Paris qui n'existe pas. Et on a beau dire, oui, c'est 2001, oui, mais alors c'est un truc sur le passé et tout. Si son passé, c'est ça, mon gars, ben, c'est que t'es un peu raciste quand même.
Il n'y avait pas de Jamel dans le film, je ne connais
jamais. Ouais, mais justement, il y avait Jamel et Jamel, il travaillait dans l'épicerie, quoi.
Ouais. Ouais, moi c'est marrant parce que c'est aussi une vision que j'avais du truc en mode pardon, mais le Paris que je connais, c'est pas ça, quoi.
Exactement. Et ouais mais quand même.
En fait,
je veux pas.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que j'imagine que Jeunet, il a pris cette imagerie là et que lui, il avait pas du tout une volonté de mal faire. Mais ce que je veux dire, c'est que cette imagerie de Paris a pu servir des gens avec des intentions beaucoup plus merdiques. Et se sont servis de ce truc-là qui à la base était peut-être un peu naïf pour justement faire avancer.
Bien sûr que c'est naïf, et c'est pas méchant. Enfin, je veux dire, mais après quand même, il y a un biais, quoi. Il y a un truc.
Bah, c'est très
je suis pas à l'aise avec ça, moi. Ah. Voilà, c'est tout. Donc moi, ça c'est toujours un peu l'histoire de ce truc-là. Moi, je faisais des albums avant. Il y a eu ce machin-là, ça a donné un biais, un regard sur ma musique,
ouais,
avec un truc où je suis vraiment pas à l'aise avec.
Attends, je recontextualise un tout petit peu vu qu'on en parle pour les gens qui connaissent moi. Donc il y a ce film, le fabuleux Le destin d'Amélie Poulain.
Non, on l'a dit.
Oui, je le dis, qui sort en 2001. Et en fait, il y a une méprise initiale dont t'as souffert. C'est qu'en fait, on te considérait comme l'auteur de la bande originale. Ce qui est vrai, mais en fait, c'est des morceaux que t'avais déjà composés avant, qu'on retrouvait sur plusieurs de tes albums.
Partie, et un truc où moi, ça a donné un éclairage sur ma musique qui ne correspond pas du tout avec moi et même mes idées. Et comme moi, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec ce film. Je vais pas le descendre, c'est pas le problème. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc, moi, comme je pense exactement la même chose. Je vivais à Paris à cette époque-là, c'était pas le Paris que j'aimais, quoi. Et c'est pas le Paris où je vivais, et à un moment je trouve que après on n'est plus à la même époque, mais enfin quand même, je veux dire, c'est...
Oui, c'est-à-dire que toi t'as été en fait identifié
ouais,
sur
ouais.
un truc
bon,
qui est
après,
pas du
on,
tout...
Après, ce qui était intéressant quand même, c'était de se dire que tout est quand même acte politique. À un moment, ça va bien. C'est aussi dire au tri de patriarcat. Ah ouais, mais on savait pas. Tu vois, c'est un peu la même chose. Mmh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il y a que des blancs, mais je savais pas. Puis j'aime bien les blancs. Et je veux pas dire ça. Je dis pas qu'il est raciste ou tout ça. Il était peut-être naïf, mais à un moment, la naïveté a des limites, en fait.
Est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit panaché? Enfin, tu sais, j'ai envie d'écouter plusieurs trucs que t'as fait et avoir ton regard sur tout ça. Parce que je parlais sur de Tout est calme. On peut s'écouter un extrait, Tout est calme, du morceau d'ailleurs qui s'appelle comme ça. On va tout de suite voir.
Ah ouais, merde, faut que j'écoute ma voix là.
Ouais.
J'ai enlevé le casque.
Ça fait longtemps que t'as pas écouté ça, j'imagine, si. Tu réécoutes parfois des vieux albums, ça t'arrive ou de toi?
Bah des fois, c'est marrant ça parce que non jamais évidemment. Okay. Enfin, c'est pas mon genre d'écouter mes trucs. Sauf des fois, j'ai putain attends les mecs ils sont là à me bassiner, je fais que du piano et puis je dis mais merde. Puis du coup j'y regarde, j'ai mais non mais là c'est une chanson. C'est mon premier album putain. Ouais. Et j'ai cette voix de merde là.
Bon vas-y on s'écoute un extrait Tout est calme de la voix de merde.
Alors attends c'est qu'on va vraiment juger. On est en quelle année là?
99, c'est ça, hein, Tout est calme, je crois.
Je sais rien. Moi.
Attends, je vérifie. Ouais, c'est ça, Tout est calme, c'est en 99. Ah, pas tout à fait. Écoute ça.
Encore une nuit. Oh là là. Tout est calme.
Ouais, en plus, c'est super, un capella, quoi.
C'est vrai que tu commences à capella. Attends, si tu veux, j'avance, ça te fait un peu.
Chose un peu flou. Tout autour. Alors, on sent très bien le beau. Serrer, se refermer sur on ne sait trop quoi. Alors on sent très bien nos mains se crisper, se tendre.
Tu vois, c'est un format hyper, très pop
super
en fait.
Pop, ouais.
Ouais.
C'est étonnant. C'était rigolo parce qu'à l'époque j'avais vachement de chansons en anglais. Et c'est ma maison de disques à l'époque, la belge disait ah putain tu devrais faire un single en français et puis bah ouais moi tu me dis ça je chante un EP avec que des chansons déprimantes.
Ah, c'est marrant dans la façon de déclamer, ça me faisait penser un peu à 16 tu vois.
Ah ouais
pourquoi je trouve des trucs un peu susurré inspirant en même temps là, je sais pas comment.
J'avais pas le choix.
Ouais, bah, je t'ai fait comme t'as pu.
Non mais après c'est cool parce que
maintenant j'essaie de faire des progrès. Non mais enfin bref.
Et tu vois par exemple si on remonte quelques années auparavant, 3 ans auparavant, c'est avec Rue des Cascades qui sort en 96. Il y a un morceau que j'adore qui s'appelle Déjà loin. Je sais pas si c'est un morceau que t'apprécies encore aujourd'hui ou pas.
Et
qui est quand même assez différent. On peut s'écouter un extrait.
C'est avant ça.
Ouais, c'est ça. C'est moi, c'est plus moi. C'est...
Si,
je me rappelle même pas de la date. Alors,
Non, mais ça c'est normal.
Ouais.
Bah je sais pas, je me regarde pas les trucs. Je sais pas moi, du coup les albums ils sont sortis. Non mais ouais. Et une chanson que j'aime bien moi, j'étais assez content. J'ai fait une chanson avec Jane Birkin.
Okay.
J'ai écrit le texte. Ça s'appelait Plus d'hiver et c'était sur le réchauffement climatique.
Ok.
Et c'est vieux.
C'était sur les retrouvailles.
Ouais, c'est sur 2005. Les retrouvailles. 2005. Ouais.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait?
Non, mais c'était marrant parce que justement l'autre fois, je dis bah si quand même, j'ai écrit des chansons. J'ai pas et du coup il y avait ça là. Je dis tiens, bah, c'est marrant. C'était sur le réchauffement. Mmh. Voilà, c'est tout.
Parce qu'il y a un truc intéressant, c'est que donc en fait, tu à la base t'aimes les musiques électroniques. tu gagnes en popularité avec des trucs plus acoustiques, mais en fait déjà sur les albums précédents il y avait déjà des mélanges où on retrouvait le côté un peu plus sampling, le côté format pop chanson, des trucs complètement instrumentaux et tout.
Bah ouais, je sais plus si c'est à l'époque de mon premier ou deuxième, mais j'avais fait un EP avec Bastard, c'était un groupe qui faisait du post-rock, enfin un truc, on avait fait un truc un peu noise, mais c'était au tout début. Ouais. Donc ouais, enfin j'ai toujours fait ça moi. Ouais.
Et il y a quand même des trucs marquants, c'est que typiquement, c'est une époque, la fin des années 90, début 2000, où tu peux faire des featuring avec Dominique A, avec Miosseg, des trucs comme ça. Toi-même, tu chantes. Et en fait, on aurait pu se dire à ce moment-là, bah, que t'aurais pris, tu vois, c'est la voix de l'interprète un peu comme eux l'ont fait. Et ça n'a pas été ton truc.
Il y avait des trucs, je sais pas, on avait fait ma France à moi aussi avec Diams. Ouais. Printemps de Bourges, c'était trop cool. J'aime bien la version.
C'était vraiment pour un live, c'est une version là ou vous l'avez enregistrée?
Ouais, non, l'ai enregistrée, elle est sur un live.
Ok. Attends, je vais essayer de trouver ça.
Enfin, c'était un super moment.
Ma France à moi, version Yann Tiersen live en 2006.
Ouais, je crois qu'elle l'a sortie aussi.
Vas-y, on s'écoute un extrait.
À moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coup, car dans la cour. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure, héroïne, cocaïne et crack et galore dure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs PEP mécaniques ne permettront pas notre patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des ponges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se verra, elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes, elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au fond. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps, certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une coque. Si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner, s'intérioriser, s'interdire de saigner. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on bouge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on bouge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, ouais. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS.
Live avec Diams. Il y a une BO qui là vraiment est toi entre guillemets, tu l'as vraiment composé spécifiquement pour le film, c'est celle de Goodbye Lénine.
Ouais.
Ça arrive 2 ans après Amélie Poulain en 2003.
Amélie Truc.
Le film dont il ne faut pas prononcer le nom.
Le Voldemort du cinéma. Ah ben c'est Voldemort. Merde.
Ça a été composé, ça s'est fait à peu près quand si ça sort, tu vois, en 2003.
C'est pas mal ça. Je te l'ai ressorti, celle-là. Merci.
Ouais, ça sort en 2003. Est-ce que c'était pour toi aussi une façon de vraiment bosser sur un film? Ça t'avait pas satisfait? Comment ça s'était fait sur Amélie Poulain?
Bah, j'avais donc rien fait, surtout, c'est pour
ouais,
ça.
Ouais.
En fait, là, c'était,
C'est devenu un classique des années 2000, quoi, ce film, Goodbye Lénine. Ouais. Il a marqué, quoi.
C'est Wolfgang Becker, le gars, là, le réalisateur, qui vient me voir à un concert à Berlin, et du coup, qui m'a fait voir, son film, enfin, où il en était, les rushs. Et moi, j'avais ma maman qui était malade à ce moment-là. Et donc, il y a quand même un élément qui est vachement présent dans le film. C'est ça aussi.
Parce que l'histoire, c'est une dame qui tombe dans le coma. Et quand elle se réveille, pour ne pas la choquer, on lui explique que...
C'est durant la chute du mur. Ouais.
Et du coup, ça arrivait pile. Enfin, c'est con, mais voilà, moi, j'étais là, super inquiet pour ma mère. Et du coup, c'est un moment comme ça de trucs qui se croisent. C'est un super mec en plus, Wolfgang Becker, il était vraiment adorable. Et même si on s'engueulait, c'est un gros fan de musique. Et moi, je sais pas, j'ai du mal avec le cinéma. C'est un moment, c'est un peu les réalisateurs, ils veulent tout contrôler. À un moment, il était là. Et je lui fais une scène. Il y a une scène qui est quand même chouette. C'est quand il y a la statue de Lénine qui se fait dégommer là. Mmh. Et il me dit putain, j'avais fait une musique. J'étais trop content. Il me sort, ouais putain, mais moi j'ai plein d'effets spéciaux qui sont super. J'ai dit, bah, j'ai rien à foutre, moi. Tu choisis tes effets spéciaux, ma musique, mais je sais pas, quoi.
Ah, s'il voulait mettre du sound design d'effets spéciaux,
bah, voulait, parce qu'il voulait un autre truc, parce qu'il avait ses effets spéciaux. J'ai dit, bah, ouais, ouais, bah, pas de problème, cool. Garde tes effets spéciaux, mais par contre, c'est l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, mais je vais pas changer mes machins parce que t'es content de ton bruit, je sais pas quoi, là. Et c'était drôle, mais on s'engueulait, mais ça se passait super
c'est,
bien.
Ça, c'est un truc, c'est vrai que le cinéma, ça peut être frustrant parce que, ça demande de l'intervention de plein d'équipes extrêmement différentes, techniques, des acteurs, musiciens.
Pardon, excusez-moi.
Et en fait, c'est juste que le produit fini, tu ne le vois pas, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler, tu dois juste faire confiance aux gens. Et après, tu vois un film avec ta musique et tu te dis, ok, bah c'est ça. C'est un truc que tu as bien vécu. C'est...
Non, non, non. Bah, puis moi, c'est un truc, il y a trop de fric dans le cinéma, c'est horrible. Ouais. Il y a trop de gens impliqués, il y a trop de pognon, il y a trop. C'est génial, hein. Moi je suis hyper fan du cinéma, mais par contre, de me bosser pour le cinéma, non. Oh là là. Puis je sais pas, il y a des machins, il y a des gens qui sont payés pour donner leur avis, donc s'ils disent rien, ils ont l'impression de ne pas mériter leur salaire. Enfin, c'est horrible, quoi. Non, non, non. Bah, je sais pas. Moi, ça m'excite pas.
Ça t'a vacciné de. T'as pas
Moi, j'aimerais bien bosser pour les jeux vidéo. Je trouve que c'est vachement plus. Bah ouais, c'est génial. C'est cool. Vachement plus libre. La place, elle est vachement plus intéressante. De la musique, en fait. Mmh. Le cinéma, la place, elle est super intéressante, mais en tant que musicien, déjà, en plus, la musique, c'est abstrait. Moi, comment je travaille, comme je disais, je jam un peu, quoi.
Donc, parce que t'as fait Tabarly, c'est un docu, c'est ça? T'as fait quand même une BO.
Ouais. Mais ça, c'était génial. C'est un docu avec des, que des images d'archives. Ouais. Donc, s'il y a que lui qui parle. Et moi, j'ai adoré faire ça. J'ai passé 2 mois en écoutant ces super interviews.
Mais le cinéma, ça t'a vacciné par contre, Goodbye Lenin, après c'était
C'est pas
fini,
vacciné,
quoi.
C'est juste que moi je sais pas travailler comme ça, c'est pas de ma faute, je suis un peu trop... Pas... C'est ce qu'on disait, j'ai quand même le côté, tu me demandes de faire un truc, je fais l'inverse, donc ça complique un peu les choses quand t'as un mec qui veut te contrôler, qui va te dire...
Il y a
putain.
Une vision et
Je sais pas, une fois, un mec il me dit, je voudrais une musique un peu orange, entre Tom Waits et Étienne Dao.
Ouais, dur.
Ouais, dur.
Mais en fait, il faut trouver un ou une réal qui
j'aime
bosse comme
Laurent,
toi.
J'aime bien Laurent, j'aime bien Étienne Dao, j'aime bien Tom Waits.
Non, il faut que tu trouves un réal ou une réal qui bosse comme toi, en fait. Ça doit exister.
Bah, qui me laisse libre et tout. Alors, ça peut arriver. Mais des fois, c'est compliqué. Et puis moi, c'est vraiment pas de la mauvaise foi. C'est que ça me bloque complètement. Si on me dit quoi faire, je sais pas. Et puis c'est pas un truc. Moi, j'ai du mal avec la musique. Enfin, la musique, je trouve ça abstrait. C'est un truc. C'est à voir avec le corps, la danse et tout ça, quoi. Et à un moment. Quand il faut faire de l'illustration, c'est compliqué, quoi. Ouais. Je trouve que ça, c'est plus les sentiments et du coup, ça peut passer. Comme là, Goodbye Lenin, ma mère était malade, pof. Enfin, voilà. Du coup, j'avais des raisons de faire ça.
Et il n'y a pas un petit sentiment aussi de fierté d'avoir accompagné un film qui est plutôt réussi, qui a plutôt rencontré le succès de manière méritée.
J'étais super content. Ouais.
Bah, mais les trucs, ça a marché aussi.
Ouais, oui, mais on a compris que c'était plus compliqué. Le rapport était plus compliqué.
Oui, c'est un succès.
Oui, par contre, c'est vrai que ça a été un grand succès. Et, c'est marrant parce que justement, après CBO, là, en gros, on est au milieu des années 2000, voilà. Et tu vas sortir des albums. Et là, en fait, c'est hyper intéressant parce que, il y a un album assez méconnu, toi, j'ai l'impression, avec Shannon Wright, en 2005. Qui est assez cool. Il va y avoir Dust Lane derrière, qui en fait là où tu vas avoir un son très rock, très tu vois, très hyper alors là c'est pas la musique électronique mais c'est amplifié, quoi, tu vois.
C'est plutôt rock, post rock,
Dust Lane d'ailleurs, qui est inspiré en partie par ton voyage en Palestine.
Ouais, c'était après la route qui mène de Eretz, enfin du checkpoint d'Eretz à Gaza City.
Et derrière tu vas faire
Un morceau qui s'appelle Palestine, c'est le premier morceau que j'ai sorti chez Mute.
Donc ça c'est en 2010, en 2011 il y a Skyline qui sort, et alors là
c'était rigolo, j'ai dit juste un truc,
vas-y.
Palestine, je voulais faire un truc c'est juste Palestine et Play, quoi.
Ouais, attends, tu sais quoi, regarde, attends, comme ça, je le mets en fond, comme ça on voit à quoi ça ressemble. Le morceau est quasiment instrumental, mais on entend régulièrement scander chaque lettre, effectivement.
Et c'est quand même sobre, hein. Tiens, je me suis fait
Quoi, on t'a attaqué parce que tu
parles. C'était antisémite.
Ouais. Non.
Bah, la classique, hein, on connaît.
Mais si. Et voilà, et c'est rigolo parce que je mettais bout à bout, en fait, sur mon album, il y a ça, il y a un autre, morceau qui s'appelle Chapter 19 et qui est extrait de Sexus, le bouquin d'Henry Miller. Okay. Et qui est justement un super beau passage. Sur le ghetto juif de New York, de Brooklyn. Et c'est assez beau comme texte. Et voilà, mais quand même.
Ouais. Bon. Ouais. Donc ça, c'est The Slane en 2010. En 2011, il y a Skyline. Enfin, tu vois, t'as vu que déjà comment ça enchaîne là, les albums et tout. C'est pour ça que je disais au début que t'étais hyper prolifique. Tu sors beaucoup de musique vraiment. Et Skyline, ça marque un truc parce que derrière, là, il y a toujours ce côté un peu rock, mais aussi ce côté un peu folk. Et puis il commence à y avoir des petites touches électroniques un peu plus présentes, je trouve. Et après, tu vas faire Infinity. Et alors là, c'est le switch total. Parce que tu vois, je sais pas si t'es d'accord avec ça. Moi, c'est mon interprétation. Tu vois, en regardant ta discographie.
Non, mais c'est vrai. Alors, Infinity, c'est assez drôle parce que c'est un album justement où je me suis dit, tiens, je vais faire où je vais revenir à mes bases entre guillemets. Donc, je suis parti avec que des jouets en Islande et j'ai enregistré.
Déjà, il y avait le délire voyage à ce moment-là.
Et j'ai enregistré que des les pays fait pas beau. J'ai enregistré que des instruments joués, enfin que ça. Et en fait, j'ai tout retravaillé. Okay. Donc en fait, c'était qu'acoustique au début, mais il y a rien d'acoustique à la fin.
Ouais, parce que genre le morceau d'ouverture d'As, tu vois, pour donner une idée à nos auditeurs, c'est ça. Hyper ambiante, hyper électronique.
C'est quel jouet ça, par exemple?
C'est une bonne question, putain, c'est quoi?
Un jouet un peu anxiogène pour enfants.
Ouais, hein.
Non, c'est un.
De 2 à 7 ans.
Je pense que j'ai un petit harmonium à souffler et je pense que c'est hyper méga pitché dans le grave.
J'avance un petit peu.
De la flûte aussi, je crois. Il prend son temps cet album.
Ouais. Tu vois, oui,
j'aime bien. Je suis hyper fier de cet album, mais c'est rigolo parce qu'il y a des trucs. Les singles. Putain, ça met des plombs à démarrer.
Attends, je l'avais mis aussi de côté, In Our Mind.
Attends. Ouais, 7 minutes 42.
Voilà, là, il y a un beat, par exemple, tu vois.
Dingue.
Non mais c'est un truc, tu le faisais pas régulièrement, tu vois.
Il y avait vachement de batterie, mais ouais, des beats, ouais, comme ça. Ouais,
ouais, non, un beat électronique,
ouais,
tu
ouais,
vois.
Ouais, non, c'est clair.
Et derrière,
en fait, moi,
ouais, comment t'as mené un peu, parce que moi, ça, c'était un peu les moments charnières, je trouvais. Après, il va y avoir ça, qui est vraiment là, un retour au piano solo. Il va y avoir plein de trucs, mais j'ai l'impression qu'à partir d'Infinity, tu vas vraiment, il y a l'acoustique, l'électronique. À un moment, je fais que du piano solo, à un moment plus électronique. Puis là, le dernier album, je mélange les deux. J'ai l'impression que là, par contre, t'as trouvé un peu ton truc, tu vois. Enfin, je sais pas.
Ça, c'était juste. Je m'étais dit, tiens, j'ai jamais fait d'album avec. Enfin, en fait, il y a jamais eu beaucoup de piano dans mes albums, bizarrement. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire un. Il y avait une idée de tournée aussi. En fait, j'ai pas fait cet album. J'ai fait des morceaux de piano et j'ai tourné avec ça. Et après, j'ai enregistré. J'ai tourné d'abord, en fait. Donc, c'était pas vraiment un album, en fait. Enfin.
C'est l'album qui défend la tournée, plutôt que l'inverse, en fait. C'est ça?
C'est la tournée qui.
Normalement, tu fais la tournée pour défendre ton album.
Ouais, là, c'est.
Et là, t'as fait la tournée.
J'ai fait la tournée d'abord, ouais.
Ouais.
Et c'est marrant parce que t'as quand même fait. Même si tu dis que l'album, il est arrivé après tout, t'as bien fait les choses. T'es allé l'enregistrer à Abbey Road, ce qui est pas du tout ton habitude. Normalement, tu fais ça dans ton studio, l'escale.
Ouais, alors là, ça, c'était super rigolo parce que j'ai enregistré à Abbey Road. Après, ma maison disque, elle est anglaise. Ouais. Et je devais enregistrer dans le studio B d'Abbey Road, ou je sais plus. Et en fait, comme c'était un album de piano solo, j'avais besoin d'un piano plutôt pas mal quand même. Et en fait, bah, dans le studio B, il y avait un piano, il était un peu pourri. Enfin, ça marchait pas. C'est pas le problème. Pour un album, ça aurait été dément. Enfin, un album normal, pas un album de piano. Ouais. Et du coup, ça marchait pas. Et il se trouvait qu'il y avait le studio A, qui est le studio le gros studio des musiques de films, machin, qui était.
Occupé.
Occupé, merci. Oh, putain. Et qui était pas occupé le lendemain. Et du coup, j'ai eu le studio A, entre guillemets, gratos, enfin, au prix de l'autre studio. Et putain, c'était génial, parce qu'il y avait une acoustique de dingue, parce que ben, du coup, ça résonne vachement. Et il y avait des fantômes, c'était trop bizarre. Il y avait des bruits, je te jure. Je sais pas, ça devait être, enfin bon, ça devait être la VMC ou j'en sais rien, mais ça faisait trop bizarre. Et il y avait une ambiance de fou. Et du coup, j'avais fait ça là. Et c'était un chouette moment.
Ouais.
Et Mais du coup, oui, cet album, en fait, c'était un... je m'étais dit, je voudrais... Parce qu'on a toujours tourné en groupe, enfin, avant ça, justement, avant cet album-là. Je tournais en groupe, on était beaucoup. Et je voulais faire une tournée plus sobre, où j'étais tout seul, dans un truc hyper léger. Et je voulais aussi, alors c'est con, mais c'est pas con, c'est pour la bonne cause, je voulais... lever des fonds pour la salle que j'ai fait à Ouessant. Donc je me disais, ben, je vais partir en tournée et je vais faire une tournée hyper sobre et je vais faire des morceaux de piano et puis voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors après,
il est beau
bizarre.
Cet album d'ailleurs, il est bien cet album en 2016.
Ouais. C'était assez bizarre parce que du coup, j'ai fait des tournées, j'ai fait une tournée l'Opéra Sydney, machin, Philharmonie de Berlin, Paris. Waouh! Eh ben, je me suis fait chier, hein, parce que, putain, c'est pas dans la culture d'aller trouver un, tu sais, d'aller boire un coup après. Ben, justement, oui, c'était le début de la fin. Ouais. J'ai un souvenir de ça. J'étais là, content, parce que quand même, c'est chouette, quoi.
Ouais.
Et après, c'était vachement guindé.
C'est
je me faisais
ouais.
chier comme un rat mort. J'étais tout seul, alors qu'avant, on était avec les potes et tout. C'était cool.
Mais alors, tu vois, je comprends pas tout. Parce que.
Ouais, je sais.
Non, mais c'est... je comprends ton envie de radicalité. En tout cas, j'interprète comme ça avec mon regard extérieur. Et en même temps, tu vas dans une institution énorme qui est Abbey Road pour enregistrer. Tu vois, les studios de Beatles, machin, etc. Enfin, un mythe.
On demande à la maison de disques. Hein, moi,
un mythe absolu, c'est vrai.
Moi, sinon, maintenant, j'enregistre chez moi, à l'escale. Hein.
C'est plutôt la maison de disques qui avait.
Non, mais c'est parce qu'en fait, c'était pas une. C'est pas. D'abord, c'est un super studio. Que les studios, c'est chouette. Et que. Mute, c'est un label indépendant. Ils ont pas dépensé des 1000 et des 100 pour que j'enregistre à Abbey Road. C'est juste, c'est à côté. Je pense qu'ils avaient des deals. J'en sais rien, en fait. Ben, moi.
Et pour toi, c'est Abbey Road, ça a beau être une institution. Je veux dire, les Beatles, ça coupe des trucs quand même. Tu vois, c'est pas du tout un
luxe. D'ailleurs, quand il y avait pas le piano, on a cherché d'autres studios. C'est juste que eux ils bossent avec Abbey Road parce qu'en fait c'est un super mal. Je fais mes masterings là-bas par exemple.
Tu cherchais pas le mythe Abbey Road,
c'est pas ça. Non, c'était juste. Bon, c'est pas mon genre. Enfin après, j'étais hyper heureux et il y a un truc à Abbey Road, hein, vraiment. Hein. Mais c'est pas mon genre d'essayer de se dire ah putain. Mais je fais mes masterings là-bas par exemple parce que je travaille avec Alex Wharton depuis hyper longtemps, qu'on s'entend super bien et que voilà, bah, après, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Hein.
Ouais.
C'est pas un luxe. Enfin, après, c'est pas un luxe. Je pourrais pas faire mastering et le faire chez moi. Donc, quand je dis ça, c'est nul. Mais j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais je veux dire, après, je suis sur un label indépendant. Et franchement, j'ai pas des budgets de malade du tout. Hein.
Donc, c'est pas inaccessible. En fait.
On peut en parler d'ailleurs. Comment ça s'est. Parce que dans cette émission, on aime bien parler aussi de l'aspect métier. C'est-à-dire être musicien, c'est un métier.
Mmh.
Et c'est un métier qu'on peut pas faire tout seul. On est toujours entouré. Enfin, en général, c'est le mieux en tout cas. Label, tourneur, manager éventuellement, attaché de presse, etc. Bon, il y a plein de gens en fait qui entourent un artiste en général pour l'aider à mener sa carrière. Puisque tu l'évoques, tu parles de ton label et tout. Il y a eu des. Comment ça a évolué au fil de ta carrière? Déjà, est-ce que ça te fait chier comme truc d'y penser, etc. Tu délègues beaucoup. Est-ce que à l'inverse, tu te dis, vas-y, c'est important. Donc je m'entoure bien et je regarde les choses et tout. Comment ça a évolué au fil de ta carrière et c'est quoi ta philosophie un peu de l'entourage en tant que musicien?
Alors moi, j'ai toujours été assez quand même indépendant. J'ai démarré sur un label de Nancy, ici d'ailleurs, avec Stéphane Grégoire. On a commencé ensemble, donc c'est un label qui compte énormément pour moi. Et après on a été en distribution, alors c'est des trucs en licence chez Labels, qui était un peu le, ils avaient 4AD, enfin c'était un peu, c'était, ça faisait partie de Virgin à l'époque, mais c'était un peu le pôle label indépendant. De ça, après, il y a eu les maisons de disques, les machins, les fusions, les rachats, les bidules. Donc, je me suis retrouvé sur un truc chez Virgin, en fait, plutôt major, et je pouvais pas. Du coup, j'ai une longue période où il y avait plus rien, où c'était... où je cherchais un label, en fait.
Okay.
Et je voulais un label indépendant. Et c'était assez rigolo, parce que cette période-là, c'était aussi le début de MySpace et tout ça, des réseaux. Et en fait, moi, ça m'a permis de maintenir le lien.
Donc là, on est en 2000, autour de 2005, 2006.
Ouais, c'est ça, ouais. Et c'était hyper important. Et après, il y a eu Mute, donc le label de Daniel Miller, un label anglais qui est un label de musique électronique à la base, indépendant, le label Depeche Mode, Nick Cave, tout ça. Mm-hmm. Et, qui sont partis maintenant, mais et qui est toujours qui sort des trucs incroyables. Et du coup, bah, j'ai rencontré Daniel Miller et toute une équipe, Geoff et voilà, il y a un côté un peu familial en fait, où c'était vraiment là, Daniel, il était justement chez EMI, donc là, c'était un peu bizarre, et il a racheté son label avec son argent propre pour redevenir indépendant. Voilà.
Et tu t'es jamais dit, alors toi par exemple, t'es originaire de Bretagne, tu t'es installé à l'île d'Ouessant il y a quelques années déjà, après un passage à Paris, etc. Mais tu t'es allé te réinstaller en Bretagne. En plus, je crois que t'as un lien personnel à ce lieu vraiment où tu t'es réinstallé. T'as racheté la boîte locale qui s'appelait l'Escale.
Enfin, c'était Bruine quand je l'ai racheté.
Ouais.
Mais ouais.
Mais en tout cas, historiquement, c'était la boîte du coin.
Ouais. Et puis c'est juste un club. Devient une boîte de plus en plus.
Tu crées ton studio sur place pour travailler toi, mais en fait, on fait aussi un lieu d'accueil avec des concerts, des activités, des choses comme ça. On pourrait dire aussi, bah, pareil pour le label, moi je t'aurais bien vu monter ta propre structure, une structure bretonne, tu vois.
Alors moi, je suis l'inverse du roi des affaires. Moi, je sais vraiment pas, tu vois, non.
C'est des démarches.
Et puis surtout, moi, c'est bon, quoi. Je pourrais pas. Après, on a monté une boîte et je suis indépendant pour plein de choses. Mais
tu vois ça là, c'est vraiment une vision très capitaliste du truc. Ça, c'est vraiment le capitaliste, c'est-à-dire où tu fais un truc et tu le fais bien, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te dire, ah ben puisque tu fais ça bien, tu devrais faire le truc d'au-dessus que t'as pas envie de faire. Laisse-le faire de la musique.
Je préfère être locataire. Moi.
Mais ouais.
Non, mais après parfois aussi le travailleur pour bien défendre ses droits, parfois il doit aussi.
Non, tu t'entoures de gens dont c'est le taf de défendre tes droits, mais tu les laisses gérer. Et toi,
il y a plein de gens qui font. Je dis pas que c'est bien, c'est parce que je pense que bon, mais.
La question des droits, du fric, de défendre ta musique, de machin, tu vois, d'aller récolter les droits dans l'utilisation de ta musique et tout, pareil, tu mets ton nez, t'as un éditeur,
Ah, bah, ça, nous, on est co-éditeur, ça quand même. Ouais.
Ça fait chier?
Non, mais enfin, je sais.
Chacun son métier.
Et puis, je sais pas, moi, l'histoire, j'aime bien que les choses, elles servent à quelque chose. Donc voilà, pour moi c'est du concret en fait. C'est l'Escale par exemple. J'ai la chance d'avoir ce lieu, d'essayer de. Mais je suis super mauvais pour faire fonctionner les choses de manière rentable ou je sais pas. Donc pour moi, parce que je me dis, ben ouais, mais ça va servir à autre chose. Puis c'est ce qui se passe tout le temps. Donc, on a tourné pendant super longtemps quand on était en groupe, juste avant que je fasse justement ça pour financer un peu l'Escale, où à la fin des tournées on était toujours à zéro. Donc on gagnait rien, mais tout le monde était payé, donc c'est cool.
J'ai une dernière question et après on passera à la chronique de Daz, qui est la nouvelle section qu'on fera cette année régulièrement. Et ça nous amènera d'ailleurs à un sujet dont on pourra parler aussi derrière ta chronique, parce qu'il a un rapport à une esthétique musicale, tu vois, dont on n'a pas encore parlé. J'aimerais bien avoir son avis, tu vois.
Ok.
Je savais que t'as un rapport conflictuel avec le film Amélie Poulain, etc. Mais j'avais prévu une question, par contre, que je voulais te poser là-dessus, une seule. Je voulais pas en parler longtemps et tout. C'était pour savoir si, parce que là, on parle de fric, etc.
Pas conflictuel.
Voilà, t'es pas à l'aise avec ça. Voilà, est-ce que dans ton malheur, parce que tu l'as quand même vécu aussi un peu comme un malheur, parfois. Enfin, en tout cas, j'ai déjà entendu te dire, j'aurais préféré ne pas le faire.
Non, mais c'est clair, c'est clair.
Est-ce que dans ton malheur, tu te dis pas aussi, parce que j'imagine quand même que ça t'a permis de générer un peu d'argent, de découvrir un nouveau pays, etc. Ouais. Et que ça a peut-être aussi financé ta liberté derrière.
Non, ça je crois pas, par contre.
C'est vrai?
Non. Non, ça... Ouais, je sais pas...
Pour y trouver du positif dans tout ça, quoi.
Mais il y a du positif, il y a beaucoup de positif. C'est que ça m'a... Peut-être j'ai tourné plus facilement à l'étranger, ça m'a permis de faire l'Escale, de faire les tournées à la voile. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, je vais pas me plaindre. Pas du tout. Et puis, j'ai pas de conflit. C'est juste que c'est pas non plus, je me sens pas à l'aise dans les valeurs, l'esthétique, en fait. C'est tout. Ça va pas très loin. Mais, et que moi, les morceaux qui ont été utilisés, ils avaient une vraie... En fait, ma musique, c'est quelque chose de... Moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais petit. C'est un truc qui avait à voir avec le deuil, qui me permettait de gérer la perte, des choses un peu sombres. Et tout de suite, t'as eu un éclairage un peu niais, un peu genre romantique. Hop, paf, les petits machins de piano, là. Bon, c'est pas ce que j'ai mis dedans, en tout cas. Ouais. Donc, c'est ça qui me gêne, déjà. Et non, ça m'a permis plein de choses. Après, moi, en fait, avant, après Amélie, sur mes albums, ça n'a rien changé, au contraire. Limite, j'en ai vendu moins. Donc, en fait, ça n'a pas... Je veux dire, il y a l'énorme succès d'Amélie, mais après, moi, mes albums, parce que j'ai toujours sorti plein d'albums, en fait, c'est pas, ça ne m'a rien apporté, vraiment. Et je peux vraiment dire ça, ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a pas fait exploser, c'est ma carrière, elle est, voilà, c'est bien, elle est stable. Mais
ça t'a quand même rassuré financièrement, j'imagine.
Oui,
c'est une difficulté pour les artistes, ça, tu vois.
Encore,
L'argent.
En fait, sinon, on pourrait dire, OK, Yann, mais tu craches un peu dans la soupe. Tu vois,
mais je suis complètement d'accord. Oui, on peut dire ça. On peut dire, putain, c'est indécent, tu gagnes. Bah ouais, mais enfin. Après, l'argent, j'en fais quelque chose. Je me suis pas acheté une Porsche. Et oui, bien sûr. Évidemment. J'ai un bateau, je fais des tournées à la voile, c'est un luxe, évidemment. Après, est-ce que moi, en tant qu'être humain, je veux dire, il y a une différence entre avoir ce pognon, justement, et être à l'abri et être confortable dans la vie. Il y a un moment, est-ce que j'avais besoin d'Amélie ? Non. Est-ce que je suis plus heureux grâce à ça ? Oui, ça m'a permis de faire des trucs parce que justement, j'ai pas capitalisé dessus, j'ai pas foutu mes machins en bourse, j'ai juste réinvesti dans des trucs, réinjecté, je préfère, ouais, d'ailleurs, parce que c'est la réalité. Et ça me permet de faire des tournées à la voile. C'est un luxe énorme et je me plains pas, évidemment. Et je crache pas dans la soupe. Oui, ouais, ok. Ça, c'est positif et grâce à ça, je peux faire ça. Okay. Après. S'il n'y avait pas ça, je pense que je le ferais aussi, je le ferais différemment. Ouais. J'aurais un studio moins avec moins de matos, tu vois, j'aurais moins de synthé, j'aurais un plus petit bateau.
Ça serait dommage.
Mais non, pas forcément. Mais
tu te débrouillerais sans.
Voilà.
Mais oui, ça va pas changer ta façon de, enfin ta volonté de faire de la musique comme t'avais envie de la faire. Quoi.
Moi, avant tout ça, j'étais interdit bancaire. Et voilà, demain, je peux le redevenir.
Bon, merci en tout cas pour ta clarté, t'en as parlé librement. Daz,
yes,
c'est ton moment de briller.
Allez, c'est la chronique.
Tu nous as préparé une petite chronique.
Le jingle, bien sûr. Est-ce que vous vous rappelez de Radical? Radical avec un K, pour faire plus street.
Ça te parle, Yann? Radical avec un K, ça te dit quelque chose?
Ouais. Alors, je vais expliquer. Hein. Radical, donc okay. C'était un magazine spé rap. Plus ou moins mensuel, publié de 96 à 2005. Sur 96 numéros, le magazine, il a mis en couvre les Fugees, Tupac, Dr. Dre, le Wu-Tang, Eminem ou Mobb Deep, côté américain, mais aussi Driver, Oxmo, Lady Lesty, La Funky Family, Salif, La Caution ou La Mafia Quinfri, pour parler d'artistes du terroir. Parler de hip-hop en donnant autant de place à la scène américaine en plein âge d'or qu'à la scène française en pleine expansion, c'était ça Radical. En 2005, et après 96 numéros donc, le magazine a cessé sa parution. La dernière couve, c'était MC Jean Gabin. Peut-être que ceci explique cela. J'ai rien, Gabin.
C'était à l'époque de Je t'emmerde, c'était.
Ouais. Tatatin. Bref, Radical, c'était un magazine qui comptait pour le développement de la culture hip-hop en France, aux côtés de l'affiche, de Groove et autres RER. Titre le plus éclaté d'un magazine spécialisé, Rap et Raga. J'ai envie de me crever à l'époque. Et là, je le dis encore, RER, c'était nul à chier. Mais ça convoyait l'esprit banlieue, tu vois. Et c'était aussi un magazine qui s'inscrivait en plein dans le destin de la presse papier spécialisée dans notre pays. Fondé par des mordus avec les moyens du bord, puis absorbé par un groupe de presse qui a fini par tuer son jouet. Au tournant du 21e siècle, Olivier Cachin, le Mehdi Maizi de l'époque, il rejoint le mag en tant que rédacteur en chef. En 2005, toute la rédaction est virée suite à la liquidation d'un groupe de presse allemand qui avait repris la gérance du titre dans un contexte business un petit peu shady. Chiki, Slim Shady. La rédac aura gain de cause devant les tribunaux 6 ans plus tard, en 2011, et on n'entendra plus jamais parler de ce magazine. Mais alors pourquoi est-ce que je joue le fossoyeur tel le Grave Diggers, encore une référence new-yorkaise, pour déterrer des cadavres morts depuis 20 ans? Eh bien parce que figurez-vous que tel Jésus-Christ, notre sauveur, Radical, est ressuscité. Oui, Salman, le magazine revient. Incroyable. Ça a été annoncé la semaine dernière. Alors, je sais pas quand les gens écoutent cette chanson.
Ça sera dans 15 jours. Est-ce que ça sera sorti?
Bah normalement oui, parce que le magazine revient en octobre. Même Combini en a parlé, donc l'info est valide. Radical revient en octobre, 164 pages, 20 000 exemplaires, deux fois par an. Je pourrais m'arrêter là et souhaiter bonne chance à l'équipe dans cette nouvelle aventure. Malheureusement, je suis un adulte et je suis curieux. Et à l'heure où n'importe quel compte Twitter qui poste une photo du petit déjeuner de Maître Gims pour la culture peut s'autoproclamer média rap, je me demande quel pari, de toute évidence perdu, a été passé pour relancer un magazine semestriel dans un secteur en crise permanente depuis à peu près 20 ans.
C'est courageux, hein.
Ouais, c'est très très courageux, sachant que quand Radical marchait bien en mensuel, il tirait 12 000 exemplaires. Là, il vise 20 000. Bref, l'optimiste en moi se plaît à penser que le mag a vraiment été relancé pour la culture. Évidemment, le gars un peu plus pragmatique se dit que le succès en kiosque des titres du groupe SoPress, comme Society ou SoFoot, a pu donner des idées à des gens qui devaient sûrement investir dans un truc plutôt que de payer des impôts. Le doomer de l'éternel qui est en moi se dit qu'avec Radical, on assiste peut-être à ce que les Chinois font avec les marques occidentales depuis quelques années. On rachète le nom. On fait de la merde avec, classique shit.
C'est qui derrière, tu sais?
Je sais pas. J'attends de lire l'ours dans le premier numéro pour voir qui produit ce truc.
On peut pas savoir.
Bah là, comme ça, en tout cas, moi j'ai cherché et comme ils ont pas encore sorti le truc, je pense que.
Et comme t'as dit, effectivement, on le verra dans l'ours.
Ouais. Le temps nous dira ce qu'il en est, hein. Mais vu l'état du game de la presse pérable dans ce pays, ça va être difficile de faire pire de toute façon. On l'a déjà dit, hein, quand on a reçu des journalistes musicaux dans cette émission, épisode 44, épisode 52, épisode 61, je vous donne pas les durées, mais voilà. Mais la presse P de base, c'est compliqué. Mais alors la presse P focalisée sur une discipline qui est devenue hégémonique, c'est carrément du suicide. Le rap, c'est la nouvelle pop. Tout le monde en écoute, tout le monde en fait, beaucoup de monde en vit. Du coup, c'est très très difficile de parler de manière critique de ce milieu.
Alors, je les cite quand même, pardon, je t'interromps, mais je pense à un magazine comme Mosaïque. Alors, j'espère que Radical, par exemple, va plutôt s'inspirer de ça, qui essaye de faire, tu vois, du bon taf, en plus, ils sortent papier et tout, autour du rap, avec un regard critique également, tu vois. Donc, il y en a, mais c'est pas la majorité, effectivement.
Le fait que je sache même pas que le truc existe, c'est quand même un indicateur. Ouais. Le risque de s'aliéner aussi bien les artistes que les labels et toutes les marques endémiques au secteur est colossal. Quand ce sont les revenus publicitaires qui font vivre ton magazine, on comprend rapidement que c'est pas Radical qui va être un peu critique en venant poser des questions de fond sur ce milieu. Je peux me tromper, malheureusement, je connais la presse.
On croise les doigts.
Voilà. Mais ça se trouve, voilà, ça sera très très bien. Donc rendez-vous quelque part en 2026 pour relever les compteurs. En attendant, bon chance Radical.
C'est clair.
Et bienvenue dans le Bourbier. Très sincèrement, je ne sais pas.
En vrai, c'est... Moi, j'aime bien les gens qui tentent de la presse écrite aujourd'hui. Je les trouve courageux et je les encourage parce que je pense que c'est...
Ouais, mais en fait, dans un monde où la presse est sous respiration artificielle par les subventions étatiques et où en fait, le reste, c'est des groupes de presse qui appartiennent à des milliardaires, à quel moment tu penses avoir... soit tu sers de token, c'est-à-dire que tu vas tomber... dans un groupe de presse détenu par un milliardaire à la con qui va dire « Ouais, regardez, on a ces petits azous là, ils sont rigolos, ils parlent de trucs de la rue et tu sers vraiment de token, genre « Regardez, on a aussi des Noirs et des Arabes qui travaillent avec nous, tu vois. » Et encore, c'est même pas sûr qu'il y ait des Noirs et des Arabes dans Radical, parce que bon, Olivier Cachin, on a connu Mehdi Maizi, par exemple. Pour moi, c'est mort. Quand, dans un pays où même les relais, les kiosques, tu sais que le groupe Relais H que tu as dans toutes les gares et les aéroports de France, ça appartient à Bolloré le truc, tu vois. Donc il y a pas de neutralité, il y a rien qui permet à quelqu'un d'exister en fait.
C'est quoi, on pourrait, pourquoi pas, alors je sais pas si ça pourrait tenir sur une émission, et pourquoi pas proposer aux gens de Mosaïque de venir nous voir, parce que vraiment je connais pas en détail, mais de ce que j'ai vu, c'est une presse qui, je crois, indépendante, qui fait un travail de qualité. Alors je sais pas quel est leur modèle économique, comment ils tiennent, est-ce que est-ce qu'il y a peu de tirage avec une petite niche, tu vois, qui leur permet des... je sais pas du tout
en fait. Le problème, mais c'est que tu seras toujours bloqué dans, tu vois, tu vas choper des subventions etc, mais tu seras toujours à l'os. À part si t'acceptes de mettre de côté ta déontologie et ton éthique, quoi.
Deux trucs là-dessus, toi, Yann. Est-ce que, déjà, on t'a pas du tout entendu, ou c'est pas venu dans la discussion, on n'a pas parlé de rap, alors qu'on a parlé de sampling, par exemple. Est-ce que le hip-hop, le rap, c'est une musique qui peut te parler, ou pas du tout, c'est pas ta culture?
Ouais, il y a des trucs, moi, qui m'ont...
Enfin, si on a parlé de Diams, quand même, mais pardon.
Ouais. Je sais pas, l'ombre sur la mesure de la rumeur.
La rumeur, évidemment, ouais, bien sûr. Ouais, plutôt rap français, quoi, du coup.
C'est ta culture ou pas tant que ça? C'est un truc que tu vois un peu de loin?
Ouais, plutôt de... Enfin, pas de loin, je sais pas. Enfin, tu...
T'en écoutes, par exemple, ou...
Pas énorme, non.
Ouais.
Ouais, parce que j'écoute pas, ouais. Ouais.
C'est marrant.
Non, mais c'est marrant parce que... Ouais,
non, mais parce que justement, ta vision de la société partagent beaucoup de points communs avec l'esprit hip-hop initial. C'est peut-être plus trop le cas avec le hip-hop de droitard qu'on a maintenant là, tu vois. Mais je veux dire le truc de base, c'est-à-dire le être en
tout cas la révolte.
Ouais, la révolte, contre l'injustice, les institutions et tout, c'est quelque chose qui est très partagé par.
Non,
par
clair, mais après moi j'écoute en ce moment je suis focalisé hyper-pop pas mal.
Ouais, c'est marrant ça.
Ouais, parce que je trouve que s'il y a une espèce de révolution là-dedans, d'éclatement des genres que je trouve génial, et le militantisme aussi, une espèce de truc qui tout est mélangé, où c'est à la fois sucré, tu vois, enfin où c'est à la fois
très
léger,
commercial et en même temps
très ça en fait, je trouve ça génial, ça me plaît vraiment. Donc en ce moment j'ai une période comme ça. Moi je fonctionne vachement par phase, ouais. Et donc c'est pour ça, en ce moment j'écoute pas trop de rap, mais j'écoute plus de l'hyperpop.
Et sur la presse musicale ou globalement les médias qui peuvent traiter d'art, etc., tu consommes un peu de trucs, t'achètes des magazines, tu regardes des vidéos, j'en sais rien, tu fais un peu de...
Moi en ce moment je suis vachement actu, le média, Blast.
Ouais, donc en mode politique plutôt, globalement.
Ouais.
Actu et politique, pas trop sur la musique et tout.
Bah non, pas vraiment, non.
Ouais, c'est pas ton truc.
Mais c'est pas que c'est pas mon truc, ouais. C'est aussi, c'est plus sur Insta, où tu vois, où je découvre des trucs, j'aime bien... si, j'écoute énormément de musique et tout, mais c'est vrai que la presse est... Et je sais pas, moi je suis, en ce moment je suis plus sur le...
Média indépendant, hein, parce que le média Blast, on peut parler de Mediapart aussi, de Street Press.
Ouais, Mediapart aussi, ouais.
Ah ouais, c'est,
oui, bah, évidemment.
Oui, qui sont clairement à gauche, mais indépendants,
qui sont très très indépendants, en fait.
Ouais. Et je trouve ça assez beau, le succès de Blast, justement. Ouais. Ils ont 1,5 million, là, je crois, d'abonnés. Ouais. C'est génial.
Ouais, on les salue.
Ils n'ont pas tout réussi.
Et Lumi, bien sûr.
Hein, les Marioles.
Ouais, les Marioles. Les Marioles, c'était pas ouf. Denis Robert. Les Marioles, c'était pas ouf.
Quand en face, il y a des connards comme Frontières qui se viande la gueule avec plein de fric, et tant mieux pour eux, quoi.
Attends, ils savent pas travailler.
Mais tu vois, en fait, le
sérieux.
Truc, le
c'est pas du travail.
Moi, je veux même reconnaître quand ça travaille bien l'extrême droite. Pourquoi pas? Mais c'est même pas le cas. Ils sont vraiment nuls.
Ils sont vraiment nuls. C'est la médiocrité qui te fait avoir cet état d'esprit-là. Donc forcément, ça se transpire dans tout ce que tu fais. Mais ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que tous les médias qu'on a évoqués là, il y en a aucun qui est publié. Ouais. Dans un kiosque.
Ouais.
C'est-à-dire que le game de la presse papier a été préempté par une poignée de milliardaires et qui font la pluie et le beau temps. Et si jamais...
Il y a l'humain.
Ouais, ok, et le canard enchaîné. Ouais. Voilà. Et encore le canard enchaîné. De temps en temps, ils ont des takes, t'es là, tu fais, ouah, frérot.
Si, il y a l'humain, oui. Quand même. Des fois. Ouais. Mais, ouais.
Mais tu vois, c'est tout un pan, en fait, de ce qu'on connaît de la presse en France est inféodé à l'hypercapitalisme, tu vois.
Mais tout, les réseaux sociaux aussi, les algorithmes, mais évidemment. Mais ça, c'est ça a commencé, enfin, en France. Moi, j'ai vraiment vu un switch. Je disais toujours ça à l'époque, mais de Sarkozy, où il a commencé à y avoir les privatisations, à un moment où justement les luttes et tout ça étaient plus du tout, ça passait plus. Tu vois, t'avais des violences policières. On n'en parlait plus.
C'est pas un sujet.
Du jour, maintenant. Et maintenant, bah, on est arrivé au paroxysme où là, de toute façon, tout les, et puis alors la presse, mais il n'y a pas que la presse, parce qu'encore, la presse, bah, quand
oui,
même.
Oui, après, il y a les chaînes de télé.
Voilà. Ah bah ouais, bah là, c'est un autre niveau. C'est incroyable. Et puis, voilà.
Je dois vous interrompre. Tu dois être dans 5 minutes dehors.
Ah merde.
Ok.
Yann. Tu sais, on a une tradition dans cette émission.
C'est
de virer
les gens.
On finit avec tes recommandations musicales. Un morceau que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs. Un truc, soit un de tes classiques, soit un truc que ça peut être de l'hyperpop que t'as découvert récemment, j'en sais rien.
Oh là,
un morceau que tu vas faire découvrir à nos auditeurs. On peut commencer avec Daz si tu veux.
Allez.
On met un petit extrait d'une minute et après on te libère. Daz, t'as ça de côté, ouais?
Un morceau qui s'appelle TV comme la TV, Dinners.
Ouais. Ok.
Par Baldy James et Sideshow. Et en fait, je crois que je peux dire que Baldy James, quand il rappe, ça me fait le même effet que les gens qui écoutent de l'ASMR. C'est-à-dire que sa façon, je sais pas, de prononcer les mots et tout.
Ouais.
Ça va directement taper un truc reptilien chez moi, tu vois.
Tu kiffes.
Je kiffe à fond.
Et bon, voilà. On s'écoute ça, TV Dinners.
Why you keep on bitching about my taste, man? Damn, ain't shit gonna happen. Off the strength, blood, muscle, and bone. Got it off the stress weed. Broken flip phones, me and the homies have knees. So we kicked in the dough. Going through shit, I'd rather cry on my own.
These people don't really know who I am. They just know the destruction I can, no will do for my fam. I keep a hammer if winning is damn.
For the same reasons.
Multi James arrive et là.
We're soldiers. Soldiers don't go to hell. It's war. Soldiers.
Blew a 50 on the duele, with girly out in LA. Tryna stick me, gotta get up early in the Tebe. Go yard scully, gazing at the stars in the cully. It's still hell block, hully gully. Get wrapped in brickies, then we kidnap them slippies. 40s on deck like a six pack of Mickey's. Name heavy in the street.
Sa voix, sa façon de faire un truc. De, ouais, de prononcer les trucs là, hully gully, machin et tout. Dès qu'il met des L, putain, je suis. Ça me jette, ça me projette.
Écoute, Boldy James.
Ouais, voilà.
C'est trop beau.
Ouais, c'est franchement très chouette.
T'as quelque chose, toi, Yann?
Les albums. Moi, qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Le dernier Kate Tempest.
Ok.
Je crois que c'est le premier morceau. Enfin, en fait, il a joué à Glastonbury et il a fait un truc. Un a cappella, je crois, du premier morceau, et c'était magnifique.
Alors, est-ce que c'est le premier morceau de l'album, tu vois? Alors, l'album s'appelle Self-Titled.
Ouais.
Est-ce que c'est I Stand on the Line?
Ouais, celui-là.
C'est
il
ça.
Il est tellement beau.
Allez.
Les paroles sont démons et c'est super ce qu'il a fait avec Glastonbury là-dessus. C'était un super moment. Voilà.
On s'écoute un extrait? C'est bien ça?
Time is a river that carries and buries. If you wait for the right time, you'll never be ready. But sometimes every cell in my skin feels too heavy. We all know something's gone wrong. Looking for convenient scapegoats to blame it on. With all the problems that we have to contend with, why are trans bodies always on the agenda? I'm alive. 35 years dying to breathe. Was on my knees fighting panic at the back of the stage. Looking for salvation in the crowd. Trying to hold it up, but I couldn't hold it down. I was swimming, but the waters were rising. Terrified if I told the truth and stopped hiding and said what I couldn't bear to say to myself. I would sacrifice everything I'd made for myself. My family, my friends, the people who felt my music would all leave. It was a belt round my neck.
Que tempête, I stand on the line. Bon, vous savez quoi, je vais sacrifier Marocco, je la garde pour la semaine prochaine parce que je veux pas me mettre mal avec Elodie qui a gentiment accompagné Yann, grâce à qui on a pu te recevoir et on va le libérer.
Allez, on le libère.
Merci beaucoup Yann Sersen, c'était hyper cool. Ouais. T'as passé un bon moment, ça
ouais,
va?
Ouais, super. Ça
va. Désolé, au foutre dehors, au début, c'est ta faute, hein. C'est toi qui a des obligations à droite à gauche, hein.
Non, et puis surtout, t'as une carrière beaucoup trop riche.
Bah ouais.
C'est n'importe quoi, t'as fait trop de trucs.
Une carrière fournie. On n'utilise pas des termes capitalistes.
Pardon, oui, riche, pardon. Fuel, riche.
Je plaisante, calmez-vous.
Et on remercie évidemment Elodie, merci beaucoup. Merci Yann, merci Daz.
Merci Salman.
Merci
Yann.
Merci François pour le montage.
Merci François pour le montage.
Merci à la bouclette aussi, Alexis, Sam, Flav, Iris.
Bien sûr,
pour la technique. Merci à Thomann évidemment, grâce à qui on fait cette émission. C'était déjà arrivé d'acheter des trucs chez Thomann, Yann? Même si t'es un peu anticapitaliste. À vous.
Ouais.
Voilà. Pour vous dire la force du truc. Bon, voilà.
J'ai la même à la maison à l'escale. Ouais, mais par contre, moi, j'ai pas. Ils font rien pour moi.
une fois n'est pas coutume. Je vais remercier Greg de chez Blackmagic qui m'a filé une clé pour Resolve. Je le remercie.
Voilà. Bah, écoute.
Tu vois, comme quoi.
Tu bénéficies aussi davantage en nature.
Bien sûr, c'est ça le capitalisme, les gars.
Bon, et merci à vous surtout.
Ouais.
On se retrouve dans 15 jours. Ça sera forcément bien.
Ce sera très très bien.
Ciao.